What's up, man?
Vous êtes là
Depuis hier soir.
Ça, depuis hier soir, vous êtes là?
Ouais.
Vous avez dormi où?
On n'a pas vraiment dormi en fait.
6h du matin exactement.
faut que tu viennes avec nous là.
Très fatiguée et j'ai très froid aussi.
Et vous espérez quoi?
Le voir, avoir un autographe ou une photo de lui.
Coming from Paris, France, the best hip-hop show on earth, Six and Daz.
Très contente et je l'adore vraiment.
So listen up. Welcome to the show. Six and Daz Hip Hop Show. Bringing you the best.
Bringing you the best in hip hop.
DJ turn it up.
Oh yeah.
Et nous revoilà après un jingle de 67 heures 58 minutes. Il va vraiment falloir qu'on fasse une version courte de ce jingle qui est gigalon, comme on dit.
Gigabon. De toute façon, c'est tous ces jeunes qui sont en bas qui disent Daz.
Mais que Daz. Hein. Ils disent pas Six. Hein.
Non, c'est que du Daz.
Ah, bien sûr. Ah, ce culte de la personnalité. Alors, ça tombe bien puisqu'on va parler d'une personnalité assez clivante, hein, ne serait-ce qu'autour de cette table.
Ouais, c'est vrai. C'est
vrai. Pour ce 13e épisode de Six and
Daz. Parce que je rappelle que c'est une personnalité, donc moi j'ai classé 3e et toi qui étais 51, je crois.
Dans le infamous top 50, alors effectivement, cette personne dont on va dire le nom dans pas longtemps a été classée 3e par Six, alors que dans mon classement à moi, elle est non classée. C'est dire déjà.
Non mais, voilà.
Le niveau quand même, ça va être très contrasté.
On est sur la même longueur d'onde. Vous allez voir.
Alors de qui parle-t-on, Six? Quel est cet artiste mystère?
On parlait de Eminem.
Eminem.
Ben oui, le Eminem. Slim Shady, quoi, le Marshall Bruce Mathers 3. Apparemment, il y en avait deux avant.
Ah, il y en avait deux. Ok. Donc, voilà.
Alors, on va direction Motor City, Detroit. Pour un MC que, comme tu dis, qui est très clivant.
Ah, la preuve.
C'est-à-dire que le grand public l'adore souvent.
Ouais. Alors, c'est là que je me rends compte que je suis pas grand public.
Tu vois. Et la partie très hip-hopette, tout ça, a tendance à dénigrer un peu l'artiste. Souvent.
Ah toi, tu crois que c'est un artiste qui est plutôt chéri?
C'est une généralité, bien sûr.
Moi, je pense que c'est un artiste qui a réussi à prendre des ponts, construire des ponts,
bien sûr,
pour attraper l'audience skater, MTV, un peu rocker, on va dire, l'ambiance des jeunes blancs qui vivent dans les suburbs.
Complètement. De toute façon. Ça, bien sûr, mais voilà. Complètement.
C'est pour ça que
pendant l'émission, on aura l'occasion d'en débattre du pourquoi et du comment la réussite d'Eminem.
Ah, oh là là.
Alors, restez branchés. Et donc il est né en 72.
Ouais, donc 72, ok.
72, donc un beau daron, un jeune daron.
Ouais. Ça lui fait quoi là? Ça lui fait, sachant qu'il en a 42, il a 48.
48, voilà. Et il est né où? Je vous le dis. Et il est né où à votre avis?
Alors il est pas né à Détroit, ça serait trop facile.
Il est dans le Missouri.
Le Missouri. Alors vas-y,
le Missouri, c'est juste à droite. Tu sors de Détroit, c'est à droite.
Attends, Missouri, capitale du Missouri.
City.
Ok.
Tu vois, donc voilà. Alors, son point d'as, on le connaît un peu.
Ah, mais c'est Saint-Louis, la capitale du Missouri. Saint-Louis.
Ah, bah oui, bien sûr. Voilà. Okay. Et pourtant, Saint-Louis quand même.
Ouais, Saint-Louis.
Et Cardinals.
Saint-Louis, Nelly.
Eh oui.
Saint-Louis également avec l'Arche.
Et les Cardinals.
L'Arche. Ouais, non, c'est incroyable. Alors,
son point d'as, on le connaît un peu tous, parce qu'il a parlé des milliers de fois sur sa mère.
Bah, tu vois, moi, je savais pas qu'il était né dans le Missouri, je pense.
Non. Ça, c'est vrai. Et donc, sa mère, Debbie, qui a pas mal de featuring sur ses morceaux, qui a parlé pas mal de fois, tu vois. Alors, ses parents étaient chanteurs dans un groupe qui s'appelait Daddy Warbucks. Dans le Dakota. Donc, ça veut dire qu'il est né dans le Missouri et après il est passé dans le Dakota.
Donc, c'est un fils de musicien.
Ouais, exactement. Voilà.
Chose que j'ignorais.
Eh ben, voilà, exactement. Ouais. C'est intéressant, tu vois. Alors, après, le schéma est classique. Je pense que dans le Dakota, Daddy Warbucks a pas trop marché. On en aura entendu parler. Quoique. Et donc là, c'est séparation. Les séparants se séparent. Et puis, on tombe dans le schéma classique. Dépression, drugs. Alors, sa mère, c'était le Valium, apparemment.
Ouais.
Et après direction, bah là, quand on a plus trop d'argent, on va dans les grandes villes. Et c'est direction Detroit.
Quand tu nais dans le Missouri, que tu fais ton bis dans le Dakota, quand tu décides d'aller chercher une vie meilleure à Détroit dans le Michigan, c'est déjà, tu sais que t'es sur une trajectoire compliquée.
Voilà. C'est souvent ça. T'es dans les campagnes et puis pour aller chercher du boulot, certainement, tu vas dans les grandes villes, quoi.
Okay.
Et surtout à l'époque, je pense que dans les années 70-80, Detroit, ça devait être la grande place pour trouver du boulot.
Oui, avec donc on rappelle, on dit Motor City, enfin Motown.
Ouais, ouais.
Motor Town, parce que il y a tous les fabricants automobiles dans la ville de Detroit.
Exactement. Renault,
voilà, Peugeot, Simca, Talbot, beaucoup de Talbot, énormément de Talbot.
Exactement. Exactement. Alors, on va pas vous faire le schéma classique, mais bon, vous voyez, vous avez tous vu 8 Miles. Quand on dit Detroit, c'est les mobilhommes de Detroit.
Alors c'est 8 Mile.
8 Mile, pardon.
Parce que c'est la rue du 8e mile.
Exactement, c'est bien de le préciser parce que souvent on fait l'erreur.
Eh oui.
That's what I'm saying, just say it low.
NMA.
Et donc voilà, donc, vous connaissez tous, on a tous vu le film, vous savez comment ça se passe. Alors, c'est intéressant parce que c'est bon, on ne sait pas, on dit oui, surtout actuellement, parce que quand on parle de politique, on dit toujours, ouais, il y a les Noirs, mais les Blancs disent toujours, ouais, mais nous aussi, on est pauvres, on vit dans les mobilhommes, tout ça. C'est un peu là. Ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est des pauvres qui vivent dans des mobilhomes.
On appelle ça les white trash.
Voilà, exactement. Et ce qui est intéressant, ça c'est intéressant, c'est parce que à l'époque c'était des gens qui votaient démocrates, tu vois, qui avaient du boulot, qui votaient démocrates. Et tous ces gens-là maintenant se retrouvent maintenant à voter Trump, tu vois.
Ouais.
C'est tous des Trumpistes.
C'est-à-dire que les mecs, ils ont absolument rien, ils vivent dans le dénuement le plus total,
exactement.
Mais ils votent pour des millionnaires et des milliardaires.
Exactement. Et c'est tout ça, c'est toute une ceinture qui vivent dans une misère totale, qui ont plus de boulot, qui ont été lâchés peut-être par des gouverneurs ou je sais pas trop là, au niveau politique et qui maintenant votent Trump, mais alors qu'un mec qui n'en a rien à foutre d'eux, tu vois, qui vraiment a rien à foutre
clairement, hein, clairement.
Et c'est intéressant ça, tu vois, parce que il y a une vraie séparation là-dessus, tu vois, et je pense que c'est pour ça aussi que,
mais le fait que le vote ouvrier bascule sur la droite voire l'extrême droite, ça me rappelle un autre pays qu'on connaît un peu mieux,
la Tchécoslovaquie, juste avant la séparation.
Et oui, la République tchèque et la France, voilà. Bien entendu,
voilà. Donc voilà, c'était un petit point politique. C'est important de le signaler, on arrive dans une période assez cruciale.
Dans une quarantaine de jours, on rappelle qu'il y aura une nouvelle guerre civile.
Ouais.
Alors ça tombe bien parce que nous, on n'en avait jamais vu aux États-Unis, mais ça fera des super films.
Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que on sait pas ce qui va se passer. Même pour nous, on sait pas.
Ah, ça va partir en couille, je le dis.
Dans les deux cas.
Oui,
dans les deux cas. Alors,
Sur Marshall Mathers.
Donc, relation très, très conflictuelle avec sa mère. Il en parle dans pas mal de morceaux.
Je crois qu'il a des relations très conflictuelles avec tout ce qui est de sexe féminin, mais ça, on en parlera plus tard.
C'est ce qui est bien possible aussi.
Oui.
Alors, le petit Marshall, il se console dans le hip-hop. Lui, il se console avec le hip-hop. Il écoute beaucoup de hip-hop. Il est très fan de NWA et de, surtout,
ce qui est très beau aussi. Il est fan de NWA, sachant que son destin, on en parlera.
Oui. Comment je peux oublier?
Big Daddy Kane, moi je dirais.
Non.
Rakim.
Rakim aussi. Mais bon, bref. Et donc, il commence à écrire ses premiers textes. Voilà, il commence à écrire ses premiers textes. Là, pour l'instant, on est en très classique, très classique. À 14 ans, avec son pote de lycée, Mike Ruby, ils prennent le nom de M&M.
Ah,
donc en fait, ça vient de là, parce que beaucoup de gens pensent Marshall Mathers, M&M.
Ouais.
Non, ça vient de Mike et Marshall.
Marrant, ça.
Tu vois. Donc après, bien sûr, lui, il en a profité en solo pour récupérer M&M, et puis ça tombe bien, parce que c'est
Marshall Mathers. Ses initiales, voilà.
Mais à la base, c'est ça, c'est M&M, c'est Mike et Marshall. C'est intéressant. Et ce serait très intéressant de savoir que devient Mike Ruby.
Bah oui, c'est ça.
Que devient Mike Ruby. Tu vois. Il a ouvert une concession de caravane
de trailer de mobilhome.
Tu vois. Voilà, tu vois. Et donc, à 16 ans, il forme le, là, j'adore le nom, c'est très original. Il forme un groupe qui s'appelle le New Jacks.
New Jacks.
Avec DJ Butterfingers. Et en 88, il sort un EP avec ceci.
En 88?
Don't come near me if you don't like pain. Suckers keep talking and I just about had it. This is my game and I'm the best at it.
On commence à reconnaître un peu le Marshall, hein.
Ah non, il rappe plus pareil là. Il rappe comme Schoolie D, comme Ice-T.
Complètement. Like to eat fish and don't fuck with this. Silly suckers talking trash is one thing I can't stand. You wanna talk trash, go be a garbage. Et donc voilà, donc le petit est à 16 ans.
88, hein, c'est vachement tôt quand même.
Ouais, à 16 ans, tu vois. Donc il sort son premier EP. Et c'est marrant parce que sur ce EP, il y a déjà, bon là on l'a pas entendu, mais il y a déjà un certain, bon je peux dire un sauce ou un frère, bah MC qui s'appelle Proof.
Bah oui,
Proof. Donc Proof. Proof, on en parle plusieurs fois dans cette émission. C'est vraiment son gars sûr. Proof, c'est vraiment son gars.
C'est son pote.
Et il est déjà sur ce projet-là. C'est quand même.
Mais alors comment ça se fait qu'il a pas fait un groupe avec son pote?
Alors.
Puisqu'il est là depuis 88.
Alors je pense que, bon après c'est l'histoire de rencontre. Hein. Je pense qu'il était avec Mike Ruby. Sinon, ouais. Il aurait fait PNM.
MNP, MNP.
Et donc voilà, donc, et en 96, donc justement, en 96, il formera avec Proof le groupe Dirty Dozen, mais ça c'est beaucoup plus tard, on en parlera
donc
plus tard.
Donc D12.
Voilà, exactement, avec 10 autres rappeurs, hein, donc ils seront 12.
Eh oui, d'où le Dirty Dozen.
Ouais, donc bon. Mais bon, en attendant, on revient. Donc, on est en 88, 89, 90. Il récupère le blaze Eminem, lui en solo, et il commence à se faire un petit nom dans le freestyle rap. D'accord. Alors, c'est l'époque, même ici en France,
tu prends un micro,
t'as des trip au bateau phare. Ouais. Tu vois, et boum, tu balances tes freestyle. Bah, nous, en fait, on a connu avec les cyniques et tout ça, etc. Et aux États-Unis, pareil. C'est exactement la même chose. Et, il va se faire un petit nom, hein. Il s'appellera MC Double M, à l'époque. Et il va lâcher ce petit freestyle.
Oh là là. Une qualité sonore incroyable. Voilà.
Très très fort ça, je sais pas si vous l'avez entendu. Il dit bon, il joue toujours, Eminem est très fort, il joue toujours sur sa couleur de peau. Et là il dit c'est vrai que je suis pâle, mais quand je te regarde on dirait que t'as vu un fantôme. C'est très fort, tu vois. Et donc à l'époque ça a dû provoquer une, tu sais, une...
Je rappelle hein, que ce que les gens appellent des clashs et des battles, moi j'appelle ça des one man show hein. C'est juste deux
bien
humoristes
sûr.
Sur scène qui s'envoient des vannes.
Il suffit d'avoir le plus grand public et tu gagnes.
Déjà de toute façon.
Ouais, ouais, mais... Donc bien sûr.
Et donc ça c'était en 96.
Ça on est en 96. Donc il y a déjà entre le EP et ce freestyle, il y a déjà pas mal d'années qui ont coulé.
Et pourtant, il n'a pas encore fait d'album,
rien du tout. Rien sorti. Ça veut dire qu'il a fait du freestyle rap pendant au moins
pendant quasiment 10 ans, quoi.
Ouais, voilà, exactement. On peut dire 8 années. Il lui racontera que son EP, il en a vendu une centaine.
out the trunk.
Exactement, tu vois, là. Et au cul du camion, il dit, tu vois. Et alors, c'est un EP que tu peux trouver. Alors, les gens disent plutôt qu'il en aurait vendu 1000 à peu près. Mais bon,
c'est quel EP? Est-ce que t'as parce que moi je me rappelle distinctement d'une pub pour Eminem qui était dans The Source.
C'était le Infinite, tu parles.
C'était pour Infinite.
Oui, c'est celui qui arrive juste derrière en 96 aussi.
Tu l'as cet album sur la table?
Non, il y a c'est là.
Ah ouais.
Il est à $2000 maintenant.
Là. Ah d'accord.
Ah oui. Okay.
Comme quoi
c'est,
hein.
Ah oui. Sur Discogs, sur là, c'était un album. Après, on va en parler tout de suite du EP. On va en parler tout de suite d'ailleurs. Juste après, on va en parler tout de suite. Mais à 20 ans, il y a une petite histoire qui est drôle.
Ah bah il a démêlé avec la police.
Voilà, exactement. Il arrêtait pour drive-by shooting, mais avec un paintball.
Alors, on rappelle pour les graphistes freelance, un drive-by, c'est quand tu tires depuis une voiture en mouvement.
Voilà, exactement.
Sur les gens qui sont sur le trottoir.
Et lui, il avait ça avec un paintball gun.
Ah, ça doit être. Ah, c'est vraiment le banlieusard. Hein. C'est les suburbs, hein. Vraiment là.
Je pense qu'il a dû s'éclater. À mettre de la peinture partout. Tu vois, mais bon.
Et il a fait de la tôle ou pas? Non,
il sera dismissé parce que la victime ne s'est pas rendue à l'audience, apparemment.
Ok, bon, bah, ça va.
Ça va. Donc, il s'en sort bien.
Ça va.
Ils ont dû l'appeler et dire, bon, toi, ce serait bien que tu viennes pas. Ah, bon, écoute,
je vais pas venir. Ok.
Tu vois. Et donc, on arrive à ce premier album, qui est plutôt une tape, en fait, tu vois, qui s'appelle Infinite, en 96, avec ce morceau.
Mais dis donc. Oh. Ça serait presque New Jack?
Ah, bah oui.
Pas mal ça. Ça sonne bien. Hein. Et ça fait. Oh la multi syllabique, attention.
Non, mais... Eminem, enfin même si on n'aime pas Eminem, il faut reconnaître une technique extrêmement pointue, extrêmement forte
bien sûr.
De Eminem. Il est très 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 très
c'est
très
un MC, hein, ouais. C'est comme ça que j'appelle
ouais,
ça.
C'est
moi,
ça, c'est un vrai MC, c'est MC Double M.
Alors c'était pas cet album là, donc c'est très bien, ok.
C'était pas celui-là, c'était celui-ci que tu parlais, Infinite.
Non, c'était pas celui-là.
C'est pas celui-là non plus. Alors. Celui-ci aussi,
en même temps, vendu. C'est normal parce que, voilà, il en a vendu combien?
1000.
Voilà, donc il a pas fait de pub dans The Source.
C'est clair. Oui,
c'est bon, ça.
C'est clair. C'est non. Et il y avait vraiment
un problème de market.
Un petit déficit. Tu vois, voilà. Alors celui-ci, voilà, c'est celui-ci. Si vous voulez l'avoir, il y a quelques pièces, hein. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, on sait jamais, ça. C'est toujours la joie de l'internet.
Ah, ouais.
Mais c'est 2000 euros. Aujourd'hui, se trouve à 2000 euros.
Mais par contre, est-ce que l'album, donc ouais. Là tu parles de l'album en version physique, mais est-ce que par exemple cet album
il est ressorti masterisé, certains titres sont sortis masterisés, notamment ce titre là le Tonight. Le titre qu'on vient d'entendre, pardon, excuse-moi, celui-ci il est ressorti pour les 20 ans, donc en 2016 remasterisé.
Mais il sonne bien,
ouais,
j'aime bien.
Je vous l'ai dit, à la fin il va le faire rentrer dans son classement.
c'est pas mal. Tu vois, c'est dommage qu'il rappe dessus finalement. Moi, je pourrais faire tourner l'instru. Mais ok.
Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on faut revenir, on est quand même en 96. Hein. À l'époque, être blanc dans le rap, c'est pas encore. Il a ouvert une voie lui, mais à l'époque c'était pas si évident que ça.
Ah bah, quand t'étais clair dans le rap, c'est que t'étais chicano.
Exactement. Et la plupart des feedbacks des DJ c'était Go back to rock and roll. Alors quand tu te vois un retour comme ça,
franchement, c'est du racisme anti-blanc.
certains diront,
mais ça existe vraiment alors. Ça n'existe que dans le rap, mais ça existe. Ok. Ouais, non, c'est vrai que c'est dur, c'est dur.
Alors bon, et puis forcément de l'autre côté, on sait là aussi. On en a parlé plein de fois, la vie est dure pour lui et Kim. Lui aussi, il est avec une Kim Scott, et leur fille. Donc, et ça va créer son personnage, en fait. D'un rappeur boom bap, il va devenir un rappeur un peu plus sarcastique, plus, nuancé, plus, là, j'ai branché au deuxième degré, troisième degré, le rap. J'ai moqué du rap, presque.
Ah, moi, j'appelle ça un rappeur MTV Jackass. Un rappeur blanc, quoi.
Oui, vraiment. Mais bien sûr.
Mais c'est-à-dire que c'est normal. C'est-à-dire que le type a pris ça comme défense pour pouvoir rester crédible dans ce milieu-là.
C'est exactement ça. C'était ça. C'est comme quand lui, il freestyle, son réflexe, c'est de parler qu'il est blanc. Ouais. Ah, tu vas me dire que je suis blanc, alors
donc il désamorce avant.
Exactement, tu vois, c'est une façon de désamorcer, bien sûr, complètement. Et c'était une carte légitime à prendre, si tu veux réussir, tu vois, à l'époque. Et ça va devenir, donc Eminem va devenir Slim Shady. Donc Slim Shady, c'est l'alter ego, que les gens comprennent bien, je pense que les gens connaissent peut-être, mais que les gens comprennent bien que Slim Shady, c'est pas Eminem. C'est vraiment deux personnes différentes. Slim Shady, c'est celui qui va dire.
Tous les rappeurs, ils aiment bien faire cette connerie.
Bah, ça permet, de dire tout ce que tu veux.
Ouais. Et en disant, c'est pas moi, c'est mon alter ego. Voilà.
Tu vois, t'as envie de dire, je viole ta grand-mère, je la prends, je l'ai découpée, j'en ai fait des sushis. Mais en disant, mais j'aime pas les sushis, moi. Ah, mais je déteste ta.
Ouais. Tu vois, bah, ça, c'est aussi la ligne de défense de François d'Origy. Donc, très bien.
C'est, tu vois. Enfin,
ça, voilà. Peut-être que François d'Origy, il avait un alter ego à l'Assemblée, tu vois.
Mais attends. Si j'étais lui,
j'aurais fait ça.
Eh oui, j'aurais fait ça, mais bien sûr.
C'était pas moi sur la photo.
Tu vois. Alors, il va sortir donc un EP. Donc là, on est toujours à pré-signature. Là, on est toujours dans l'indé. Hein. Donc, il va sortir un EP qui s'appelle le Slim Shady EP avec ce titre. Person that you play is worse than Marty Schottenheimer. You acting in the motherfucker you bitch your style from. You ain't gonna sell two copies if you press a double album. If it is, fuck it, while we coming out in the open. I'm doing acid crack, smack, coke, and smoking dope. Tu vois, Eminem? Non,
Eminem.
The Dame was a bien tout.
Ah, mais non, mais c'est celui-là!
Oui, mais oui, ça c'est l'album, le premier album, celui-là.
Ça c'est le premier. Ah non, c'était pas celui-là. Oui, ça c'est le. Ouais,
c'est okay, l'album numéro avec le
maillot. Non, c'était pas celui-là.
Et donc, il a sorti. Alors avant, donc celui qu'on va parler juste après, le Slim Shady LP, c'est donc le Slim Shady EP. Donc c'est ce qu'on vient d'écouter. Et d'ailleurs, ce titre Just Don't Give a Fuck sera repris dans le. Dans la version album d'après, remixé avec Dr. Dre, blablabla. Bon, bref. On connaît. Alors, c'est marrant, c'est qu'il dit, même lui-même, lui dit, ce EP, il en fabrique 500 et qu'il en a vendu 250. Tu vois, donc bon.
Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas.
Quand ça veut pas. Et bon, là, tu te dis quand même, le mec, il aurait pu faire autre chose, hein.
Ouais.
Tu te dis, putain, et là, il continue. Et en 97, il va participer à, et là, il y a une des plus grosses battles de rap. Ça s'appelait, moi, je me rappelle de ça parce que j'avais suivi, il y a d'autres MC qui ont surgi de ça. Ça s'appelle les Rap Olympics.
Aujourd'hui,
vous allez sur YouTube, vous voyez tous les combats. Et vous allez voir plein d'MC qui ont explosé après, qui étaient arrivés là, qui battle. Et c'était super grand. Il y avait des milliers de spectateurs aujourd'hui. Heureusement, ça sera possible. Et lui, il va finir deuxième.
Ah, pas mal.
Pas mal.
Ouais.
Donc deuxième, ça lui permet d'avoir un petit stagiaire de chez Interscope, qui va lui demander son petit EP et qui va le filer à qui? Hey. Si vous avez Netflix, vous le savez.
Jimmy Iovine.
Voilà, exactement. Qui lui va le jouer à Dr. Dre. Et la légende commence à partir de là. Dre va lui dire, find him now. Je fais très bien Dr. Dre, pardon.
Ouais, c'est très bien. C'est très très bien. C'était un Dr. Dre un peu chelou, mais ok.
Ouais, voilà.
Okay.
C'est un Dr. Dre qui est encore interne, quoi.
On rappelle qu'en 97, Dr. Dre, il est encore chouk parce qu'il a quitté Def Row un an plus tôt.
C'est pas chouchou pour lui, là.
Et il est pas exactement cool. Il est en train de, je crois qu'en 97, il a déjà sorti son album Aftermath.
Ouais,
qui est pas terrible, avec tout ce qu'il a pu sauver, genre RBX et d'autres mecs. Et donc, les gens déjà étaient en train de dire, Dr. Dre, ça y est, il est cuit.
Ouais, exactement. Et surtout quand il signe, donc Eminem, les gens lui tombent dessus.
Bah là, là tu dis ok, ouais. Donc t'as quitté Death Row Records pour aller signer un blond de Détroit. Ouais,
exactement. Mais vraiment, mais les gens ne comprennent pas.
Qui a vendu 53 albums.
Les gens ne comprennent pas. Et lui, il leur dira, il dira, écoutez, moi je m'en bats les couilles, qu'il soit jaune, blanc, vert ou violet. En gros, s'il kick, bon lui il va dire s'il kick, je serai avec lui, mais lui il va dire quoi? C'est le vert. C'est le vert, tu vois. Eh oui, la salle de couleur, le dollar. Ben oui, tu vois. Là, forcément, après, tout est réécrit, l'histoire est belle, hein. Ça, c'est clair. Hein. Et ce qui est marrant, c'est qu'il raconte, Dr. Dre, quand il voit la première fois qu'il voit Eminem arriver, Eminem arrive dans une parka calcani jaune, et il va qu'il tombe de sa chaise, il fait, putain, ouais, j'ai vu un mec arriver. C'est un petit, parce qu'il fait 1m60, je crois, Eminem, dans une parka jaune calcani de l'époque, tu sais, tout de plus, là, tu vois. J'ai vu Willie Hansen, je crois, plus dans Willie
Hansen.
Ouais. Et il a dit, il paraît qu'il est arrivé, il l'a vu, il a fait, ah ouais, t'as le mec, il a rendez-vous avec Dr. Dre, il est arrivé comme si, il allait à la pêche, quoi. Mais bon, à l'époque, on remet dans le contexte, c'était tendance, les parcs à pluie.
Non, non, mais à l'époque, je vais même te dire que les salopettes de pêcheurs.
Ah oui, oui, oui.
Eh oui, eh si oui. Vous regardez les clips de Big L, si vous regardez les clips de OGC, les mecs, ils sont littéralement dans OGC, dans No Fear, c'est Louisville, il est déguisé en pêcheur avec le chapeau.
Mais c'est dingue.
Le ciré.
Je te jure, aujourd'hui, t'as rien à voir, c'est un documentaire, tu sais, les Islandais qui vont pêcher.
Les mecs se déguisaient en pêcheur, tu sais, au chalut.
C'est hallucinant,
Et je vais le dire ici. J'ai eu ma période Ellie Hansen. Bah, parce que ils ont pas les.
Mais c'était rush, hein.
Ah, c'était très cher.
Ah, c'était super cher.
Astuce. Il y avait des moins chers, mais c'était plus des Ellie Hansen. Il y avait des Columbia.
Des Ellie Hansen.
Et il y avait des encore moins chers, il y avait des Decathlon. C'est les vestes de voile.
Bien sûr. Voilà. De toute façon, Decathlon, toujours là pour nous aider.
Ah, bah, bien sûr. Bien sûr.
Alors, bien sûr. Alors. Donc, il va si. Alors, entre parenthèses, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais en 98, il va être Hansen Hype, ces deux sources. Et souvent, comme on en a déjà parlé, quand t'es Hansen Hype chez The Source, il se passe des choses pas mal après.
Soit
souvent,
tu te fais fumer, soit tu sors un album.
Mais souvent, c'est bien. La première année, c'est pas mal. Ouais. Tu vois, donc, il va sortir en 99.
D'ailleurs, je me demande, demande à quel point c'est pas pipoté.
C'est complètement pipoté.
D'être vu comme Hansen Hype. Donc, on rappelle, Hansen Hype, c'est la hype qui n'est pas signée encore dans une maison de disques. Mais le mec, il a déjà rencontré Dr. Dre à ce moment-là.
Bien sûr.
Il est Unsigned Hype. Je me dis, il y a quand même des petites tractations.
J'espère que nos auditeurs le savent, que The Source n'est pas un magazine indépendant.
Ouais, on est d'accord.
The Source est maqué par toutes les maisons de disques. C'est comme une radio. Je veux dire, il y a des pages de pub. Et le Unsigned Hype, forcément, tu dis, on a signé un petit jeune. Tu veux, mais Unsigned Hype. Voilà.
Et en échange, je t'achète de la pub.
Voilà, exactement. C'est bien sûr. Mais bon.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, je lisais cette page-là en me disant, hey, des gars qui sortent de nulle part.
Parce que nous, on connaît pas les.
C'est quoi ça, DMX? Ouais. Ah, c'est marrant, on dirait un vélo.
C'est clair. Donc voilà. Donc,
et c'est quoi ça, Younglay et Ray Love? Ah, Unsigned Hype. Ouais, oui.
Et puis Avoc aussi, Avoc et Prodigy, tu vois aussi.
Bah eux, ils étaient déjà. Ah oui, non, mais il y a longtemps.
Et donc voilà. Donc alors, ça lui permet donc que le 23 février 99 de sortir cette fois-ci le LP de Slim Shady avec un petit titre.
Pas connu.
Voilà.
Ah, mais j'ai jamais entendu ça!
Ah, bah tu vois, c'est sympa.
Ah, c'est cool!
Excuse me! My name is. Can I have the attention of the class? For one second. My name is. Hi, kids! Do you like violence? Wanna see me stick 9-inch nails to each one of my eyelids?
Voilà. 100% MTV.
Ouais. Alors, il a quand même créé un truc. Je veux dire, on peut dire, il a créé ce personnage qui est ironique, qui est tellement méchant, tellement vicelard. Et puis avec cette voix nasillarde, parce que Eminem, c'est une voix. C'est une voix qui est tellement nasillarde que moi, la première fois que je l'écoutais, c'était désagréable.
Eh ben moi tu vois c'est ça et du coup j'ai arrêté.
c'est vrai que et je pense que tout le monde, c'est pas une voix agréable à écouter Eminem, c'est une voix nasillarde qu'il a dans l'oreille. Alors peut-être que les Américains qui ont une habitude un peu plus nasillarde, peut-être que ça passe un peu mieux, tu vois. Mais nous en tant que Français avec nos voix un peu plus rauques, plus basses, t'as le mec il est arrivé, tu te dis ah ouais quoi.
Qui est-ce qui a produit ce morceau?
C'est Dr. Dre.
C'est Dre, hein.
C'est Dr. Dre, prod Dr. Dre.
Donc ça a changé quand même de la. Parce que là, la prod qu'on entend sur Dre, ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait l'habitude de faire.
Ouais,
là, il y a du gros sample assumé.
Ah bah là, je pense que Dr. Dre, il avait commencé à avoir ses petits claviers. C'est Scott Storch et autres.
Là, je pense quand même que. Parce que l'original, c'est I Got the Blues de l'habit Cifre. Je pense que lui, il a été refait à l'infini.
Ah bien sûr.
Juste en publishing, parce qu'il a prêté le son.
Complètement. Et là, à partir de ce moment-là, le My Name Is, c'est
une déferlante.
Ouais. En 99, c'était mon premier voyage aux États-Unis, et donc j'ai vécu ça. Il n'y avait pas un kid qui avait qui avait ou le t-shirt ou la casquette ou le c'est on, je pense qu'aujourd'hui on imagine même pas l'impact qu'a eu Eminem aux États-Unis. C'était énorme. Alors bien sûr, le blanc suburb se reconnaît facilement.
Bah là, c'est la revanche, la revanche des banlieues là, bah oui, bien
c'est,
sûr.
Et c'est mais c'est un impact fort fort fort. Moi je pense que c'est presque comparable à Michael Jordan dans le basket. Tu vois.
Attention néanmoins.
Non, mais un niveau c'est révolution, tu vois, genre grand public. Aux
donc États-Unis, là, faut imaginer aussi le niveau de somme surmultiplié.
Bien sûr.
De la part des rappeurs qui se disent, on avait notre truc à nous.
Ouais, exactement.
Et vous nous calez un blanc exactement. Qui va tout niquer.
Exactement. Et donc, d'où le parallèle avec Elvis Presley. Et ouais. Du coup, ils feront bah le parallèle avec Elvis bah Presley, sûr, qui a pris le rock'n'roll au noir.
Qui a pris le blues. Et ouais, bien sûr. Ouais,
bien sûr.
Ouais.
Ça, on en parlera. C'est intéressant parce que, bah, il faut en parler. C'est normal aussi. C'est aussi une raison du succès. Alors, il est très fort Eminem, il est très respecté. Il y a pas un MC qui va te dire qu'Eminem il a volé sa place.
Non, bien sûr.
Il est très très respecté.
Mais je peux comprendre qu'il y a un seum.
Bien sûr.
Mais du coup, alors c'est chelou parce que ce titre-là, pour moi, il a été bastonné à l'infini.
Oui.
Et pourtant, il fait que deuxième au Billboard.
Oui, bah, bien sûr. L'album va faire deuxième au Billboard. Ce sera le seul. Hein.
Tous les autres
seront numéro un.
Ah oui, d'accord. Oui. Okay. Ce sera le seul dans ce sens-là.
Ce sera le seul. Voilà. Okay. Ce sera le seul. C'est-à-dire qu'il a commencé bien, mais personne connaissait Eminem. Et donc il fera 6 millions US et autant dans le monde, donc ça fera attention là je fais un petite parenthèse on va parler de chiffres qui n'ont rien à voir avec les émissions précédentes.
Bah ouais, en tout cas pas avec... oui, d'accord, ouais.
Là vraiment, je veux dire la base, on est sur du base 10 millions worldwide hein, tout le temps après.
Ah oui, d'accord.
Donc okay. Là vos petits MC qui vendent 100 000.
ouais là c'est pas Benny Siegel quoi.
Ah non, là je veux dire c'est clair lui, ce que les autres font toute leur vie, lui, il l'a fait à la première heure, quoi. C'est dans les bacs. C'est une machine. Après, il y a différentes raisons. Et ce qui est intéressant, ce que j'aime, c'est qu'il va faire une dernière apparition d'indépendant. C'est la dernière, hein, avec ce titre dans la compilation que j'adore, je chéris. Ça fait déjà plusieurs fois que j'en parle. Soundbombing 2, avec ce titre.
Ça me rappelle une émission pendant le confinement.
Oui, exactement.
Tu l'avais passé, ça.
Oui, exact.
Hi. Original bad boy on the case, covered your face. Came into place, blowed and sprayed puffy with mace. I laced the weed when it's sack repellent. Better check the smelly. Eminem starts with E. Better check the spell it with a capital. Somebody grabbing a Snapple. I got an aspirin capsule trapped in my Adam's apple. Somebody dropped me on my head, and I'm for sure that my mother did it, but the bitch won't admit it was her. I slit her stomach open with a scalpel.
Alors, j'adore cette compil, j'adore ce morceau. Et on en avait parlé aussi la dernière fois. Donc il y avait Rocus, c'était un label indépendant.
Ouais, label Rocus. Ouais.
Voilà. C'était pas qu'à New York. Il y avait un Français qui travaillait chez Rocus. Et donc quand t'étais français, que t'étais un peu dans la musique, et ben, t'avais ton rendez-vous chez Rocus, toi.
Obligé.
Ouais, voilà. Et donc on allait chez Rocus. Et le mec, à cette époque, il nous avait dit, Soundbombing. Quand on a enregistré Soundbombing, Eminem il est arrivé et il a mis d'accord tout le monde. Ça, il l'a posé comme ça. Paf. Et il a dit, c'est vrai qu'on a vu un MC extraordinaire. Mmh. Qui survolait le truc. Il était fait pour être une superstar. Alors Dr. Dre a utilisé ou a été assez malin pour signer Dr. Dre, pour signer Eminem, quoi.
Dr. Dre, hein,
il est malin de base. Hein, il est docteur après tout.
Il a fait des études. Non mais c'est vrai que tu réfléchis, tu te dis c'était qui son poulain avant Eminem, Snoop Doggy quoi.
Eh oui.
Tu vois. Donc voilà. Ouais, tu vois, c'est que le gars il sait qui il signe.
Et c'est fort de faire la doublette. Hein.
Ouais.
Et la triplette bientôt après.
Ouais.
Donc je veux te dire que avec 50, tu vois. Eh oui.
50 donc, avec.
Et puis après on va me parler d'une quadruplette avec Kendrick.
Bah, il l'a. Ah, bah oui, si.
Ouais,
non,
oui.
Mais non, parce que Kendrick, il est chez.
Enfin, c'est chez Aftermath, quand même.
Il est chez Top Dog, il est pas chez Aftermath. Hein.
Ouais.
Par contre, il y a eu Anderson Paak sur l'album Compton et tout. Non, il est fort. Dr. Dre, il est fort.
On sait pas s'il est à l'initiative 2, mais en tout cas, il a une oreille 2. Il a une oreille.
Je pense qu'il a un très gros réseau, un peu comme Varys dans Game of Thrones, tu vois. Il y a plein de gens qui lui disent, ce mec-là, tu devrais regarder.
Exactement, exactement. C'est très respectable, hein. Parce qu'après tout, tu peux être aussi chef d'orchestre et puis diriger ton
équipe. Non, mais clairement.
Et donc voilà, donc à côté de ça, il va former un groupe, et bon, on va en parler vite parce que plus tard ce sera assez important, et ça s'appelle Bad Meets Evil, avec un autre MC que j'adore aussi, un autre MC de Detroit qui s'appelle Royce de 5ix9ine, j'ai pas vu son nom, mais heureusement je sais.
Ah, c'est Royce.
Royce de 5ix9ine.
Mais bien sûr.
Alors, c'est l'époque, je les ai ramenés parce que
Moi je confonds, hein, je vais te dire, je confonds Royce de 5ix9ine.
Ouais.
Trigger the Gambler
et
Smooth the Hustler.
Ouais, ouais.
Parce qu'ils ont tous quelque chose. Et il y en a deux en plus qui sont frères. Et à chaque fois, je me plante. Donc voilà, je le dis, hein, quand vous mettez quelque chose, the quelque chose, moi, ça me matrix à chaque fois, c'est systématique. Donc là, c'est Royce the 5ix9ine.
Royce the 5ix9ine. Alors, super MC de Détroit. Franchement, c'est un MC qui,
On l'appelle, alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle, parce que nous on lit ça Royce da 59,
oui, oui.
On l'appelle 5'9 parce que c'est sa taille.
C'est sa taille, qui est en plus une taille respectable, qui même une taille qui est pas notable.
Ben non, 5'9 non, ben non, tu fais 1m63.
Ah si, ouais, oui, c'est vrai. C'est... Attends, 5'9 ça fait combien?
Ben ça fait pas beaucoup.
C'est pas 1m80, 5'9?
Non, 1m80 c'est 6 feet.
Et 5'9 c'est juste en dessous?
Bah ouais, mais du coup j'ai l'impression
ça
que...
beaucoup la différence.
Parce que y avait 5... Five Dog de Tribe Called Quest qui s'appelait Five parce qu'il faisait 5 pieds.
Ouais, mais 5 pieds 9 pouces, c'est quand même pas mal. Hein,
ah ouais, moi je suis
bon. Et alors encore une fois, on va lancer un jeu concours. On en profite.
Même sans les croix, c'était petit quand même.
Mais
hein.
Non, de toute façon, il est petit. C'est clair qu'il est petit. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été étonné parce que quand je comparais avec le basket où il y a beaucoup de taille, tu vois, et je voyais 5'9 après 5'11 ou 6.
Oui, mais c'est ça. Pas, voilà. Vois, c'est qu'il y a 5'11 avant le 6.
Non, voilà.
Donc,
bref, il était petit.
Je pense qu'il fait moins d'un mètre 70.
Et là, j'ai parlé au connoisseur de qui achetait des vinyles à cette période 99-2000. Si vous vous rappelez les pochettes de Game Recording.
Ah oui.
Les pochettes de Game Recording, ils mettaient toujours des femmes. Habillé.
Alors là, il a le vinyle, hein. Il a le vinyle en plateau. Ouais.
C'est The Game Recording, ça, c'est leur titre.
Ah, effectivement, c'est relativement explicite.
Ouais. On pourrait dire aujourd'hui pas très républicain.
Ah, bah si, c'est 100% texan, ça. Non, mais alors.
Non, mais républicain, je parle.
Ah oui, la tenue républicaine de Castex. Voilà. Ok, ouais. Alors effectivement, parce que du coup, sur la pochette, c'est deux femmes en position relativement suggestive, habillées dans des combis un peu latex cuir.
My body, my choice, quoi.
Ouais. Oh. Mais alors, c'est marrant parce que du coup, effectivement, sur la pochette, ils sont pas présents. Ils sont présents au dos.
Alors, et c'est drôle, c'est qu'il y a eu une deuxième cover qui est sortie pour les pays où c'était pas autorisé.
Ouais,
ils ont mis un corbeau.
C'est juste un corbeau. Ouais, ok.
Tu vois.
Toi, t'as acheté les deux.
Ouais. Bah oui, j'avais acheté surtout le premier, je pense, et après le deuxième pour l'accrocher.
Mais ceci étant, je me rappelle que à l'époque, je faisais du son avec un pote qui avait fait aussi une mixtape.
Ouais.
Et pareil, il avait mis une meuf, il avait fait une séance photo avec une meuf qui était également très petite tenue. C'était
à l'époque, faut voir qu'à l'époque du vinyle, toutes les semaines, il y avait 500 000 vinyles qui sortaient. Hein.
Là, au moins, on te voit dans le bac.
Voilà, exactement. Là, c'était, t'accrochais un peu plus. Et Game Record, ils ont fait une série qui est maintenant tricotée, hein, d'une dizaine de vinyles seulement, où c'est que des femmes comme ça. À tous les collectionneurs de bons sons, bien sûr, des collectionneurs de bonne musique, bien sûr. Tu vois. Et on reviendra plus tard parce que il y a une histoire aussi avec Royce qui est intéressante.
Mais alors donc ouais, ça c'est Bad Meets Evil.
Ouais, exactement, ça c'est en 99 aussi, 98, voilà, tu vois. Et là on va jumper un petit peu et on va arriver en 2001. Et là 2001.
Ah, en 2001. En
2001, c'est l'album.
Ouais, bah, moi je dis 2001, c'est une année marquante. Alors certains pensent au septembre, moi je pense pas du tout à ça.
Ouais. Et bah tu sais que moi non plus.
Non.
Bon, 2001, ça fait penser à ça. If y'all don't like me, blow me. Y'all gon' keep fucking around with me and turn me back to the old me. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say. But nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish. And motherfuckers act like they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say. But nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish. And motherfuckers act like they forgot about Dre. So what do you say to somebody you hate? What? Or anyone trying to bring trouble your way? One mais alors, mais c'est la blague. Parce que oui.
Le truc s'appelle 2001, mais en fait, il est sorti en 99.
Ouais, enfin, 99. Début 2000.
Voilà.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, on rappelle pour problème de droit.
Oui.
Parce que il y avait un certain Sage qui avait sorti.
Parce qu'en fait, effectivement, Suge Knight, le
Mac.
CEO de Death Row Records, savait que Dr. Dre voulait appeler son deuxième album Chronique 2000.
Eh oui.
Et donc, il a sorti une vieille compile toute flinguée du cul avec ce nom-là. Ce qui a forcé Dr. Dre à ne même pas l'appeler Chronique 2001. Il l'a appelé 2001
exactement.
Avec la feuille de chronique
parce
sur la pochette.
Il avait même pas les droits de chronique.
Non, ouais, c'est ça.
Ouais. Alors, imaginez le niveau de maquage.
Non, mais on rappelle. Que Dr. Dre a quitté Death Row Records en pleine nuit avec un slip et son portable et on l'a plus jamais revu. Je veux dire, c'était une fuite hein, plus qu'une.
Il a eu des balls quand même de le faire.
Ouais.
Je pense qu'à l'époque il fallait.
Et ouais, pour s'opposer à Suge Knight, je pense qu'il était protégé par le FBI même. Hein, parce
que, tu penses, ouais.
Oh bah oui, je pense que t'essaies de crosser un mec comme Suge Knight, on te retrouve dans le coffre d'une Cadillac
Eldorado. Parce que j'ai toujours dit, je me dis, la puissance qu'il avait, Suge Knight, si toi tu continues à faire du rap West Coast dans ta ville, c'est que t'as des balls, quoi.
Ah non, c'était compliqué.
Ah ouais.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il a dit been there, done that, hein, Dr. Dre, et que il a arrêté de faire du pur gangsta rap.
Ouais, c'est vrai,
pendant quelques temps.
Ouais.
Le temps, justement, d'avoir les testicules qui repoussent.
Et puis que l'autre se mette aussi un peu à l'ouest, parce qu'après il est tombé aussi.
Et puis après, bon, Shug Knight, de toute façon, il suffisait juste d'attendre un petit peu, il ira en tôle tout seul.
C'est clair. C'est vrai. C'est vrai.
Et donc il est revenu avec 2001, et donc voilà. Évidemment, Forgot About Drake était un des singles. C'était le premier single? Non, le deuxième.
Le premier, c'était Still Dre.
Bah, c'était, oui.
Still Dre. Un titre écrit par Jay-Z.
C'était quoi? C'était pas la 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 la, hein?
Exactement, ça c'est ça.
Ouais, c'est ça, avec Snoop.
Ouais. Titre, alors je me rappelle le vinyle vert que tu jouais là.
Incroyable.
On l'a dit en même temps. Quelle époque.
Donc effectivement, Eminem, il avait déjà tout niqué avec son premier solo. Exactement. Et en plus,
il a son producteur qui arrive, parce que, encore une fois, hein, et c'est peut-être pas le Dr. Dre de maintenant, qui arrive avec ce 2001 et qui fait une vague.
Ah bah oui, là, ça.
Donc on parle de 8 millions aux États-Unis. Et 5 ou 6 millions worldwide. Mais tu vois, c'est marrant parce que j'ai eu les chiffres France. Et bah, devine.
Mais ils sont faux, tes chiffres.
Ouais, non, je te jure, c'est les chiffres charts.
Mais c'est pas possible.
Et il a vendu 100 000 en France seulement. En charté. Je te jure que c'est vrai. C'est actuellement, il est charté, Chronique 2001.
Ou alors, c'est pas possible, tout le monde l'a téléchargé cet album, c'est pas possible.
Et bah, tu sais,
en 2001.
Après, attention, à l'époque, c'était, on copiait les CD.
Ah ouais, donc il y a eu des bootlegs en fait.
Donc il y a certainement beaucoup de bootlegs. J'ai réussi à avoir pas mal de chiffres. Et les chiffres, France, quand t'es à 100 000, 150 000 en hip-hop, c'est lourd, hein, en hip-hop US. Hein.
Non mais attends.
Tu sais, on est dans un marché beaucoup plus petit qu'on pense, tu vois. Beaucoup plus petit qu'on pense, tu vois.
100 000 ventes
ouais, 100 000 ventes pour 2001, ouais, en France.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc du coup, des rappeurs qui font 35 000, c'est honorable alors.
Ah ben bien sûr, c'est pour ça qu'ils sont disques
d'or. Oh mais quel pays de tocardos.
Oui, on a toujours tendance à croire qu'on est un grand PIB. En France, tu fais 100 000, t'es platine.
Oui, parce que moi j'entends toujours, oui, deuxième marché du rap au monde. Là,
parce
là,
qu'il y a le rap
là.
Français.
Ah ok, d'accord.
Parce que nous, on a un marché spécial, c'est-à-dire que contrairement aux autres pays comme l'Allemagne, la Russie, la Pologne, qui ont des petits marchés, mais ça vaut pas le rap français. Le rap français, c'est un gros marché. C'est un gros business. On est le seul pays, en dehors des États-Unis, à avoir notre propre marché local. D'ailleurs, on peut dire merci à la loi.
C'est tout bon
qui a permis ça, parce que c'est-à-dire il fallait jouer des quotas de musique française, ce qui en fait que le rap français a pu exister, ou sinon il y aurait pas de rap français, hein. Faut pas se voiler la face.
Putain, tout ça c'est à cause de Toubon.
Tu imagines,
est-ce qu'il avait prévu ça, lui?
C'est pas lui l'original gangsta.
Ah bah de ouf.
Et tu vois, alors s'ensuit une petite tournée.
Ah bah il était dedans, lui.
il était dedans. Et le Open Flick Tour.
Le Up in Smoke, hein, donc méga tournée. Il y avait qui là-dedans? Il y avait Dr. Dre, il y avait Ice Cube,
il y avait Warren G,
Exhibit, Mac 10, WC, donc toute la West Side Connection.
Toute la West Side Connection, Exhibit.
Ouais, le Dog Pound aussi.
C'était
fou.
Il devait passer des petites soirées.
Ah, je pense que c'était des aquariums.
Je pense franchement que les hôtels devaient dire non, on est plein. franchement, la logistique.
Ils ont dû tout arracher. Ouais.
Ah, finesse. Et donc, il y a ça.
Donc là, il est quand même sur une séquence assez forte.
Assez forte, un beau démarrage. Après, il y a une belle galère, un beau démarrage.
Ouais. Non, c'est pas un démarrage, c'est un
redémarrage.
Un bon solo, des featuring avec Dr. Dre, une tournée incroyable. Ouais.
Et puis un vrai flow. Hein. Je veux dire, moi je me rappelle qu'à l'époque, il faisait la diff. Quand il rappait, il faisait la différence. Ouais. Justement, avec ce ton, ce très nazia. Et ce qui est bien, certainement pour lui aussi, c'est que cette voix nazia l'a distingué très tôt des autres.
Ouais.
Tu vois? C'était pas un rappeur blanc qui rappait que les rappeurs noirs ou autres, tu vois. Il se distinguait, en fait. C'était Eminem, tu vois. Et donc, les gens pouvaient dire, mais il est blanc, lui. Tu vois. Parce que c'est vrai que des fois, t'as des rappeurs qui rappent, tu dis, non, lui, c'est un black. En fait, tu le vois, il est blanc, tu vois. C'est cool, on a des préjugés, c'est normal d'avoir des préjugés, tu vois.
Ah, moi, j'en ai pas.
Et ben, lui, c'est très vite distingué avec sa voix, tu vois.
En fait, du coup, c'est devenu un véritable personnage pour transcender ce truc-là.
Exactement. Bah, de toute façon, c'est ça. C'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pour laquelle ces chiffres sont complètement hallucinants. On a envie de le voir. Donc avec le deuxième album, cette fois-ci, on arrête Slim Shady, on revient sur un peu plus sur lui-même. C'est le Marshall Mathers LP avec ce titre. Hey yo. Sit back with this pack of zigzags and this bag of this weed. It gives me the shit needed to be the most meanest MC on this earth. And since birth, I've been cursed with this curse to just curse and just blurt this berserk and bizarre shit that works. And it sells and it helps in itself to relieve all this tension, dispense and these sentences get in this stress that's been eating me recently off of this chest. And I rest again peacefully.
Ah, y a tout ce que j'aime pas là-dedans. Les clochettes lugubres. le flow.
Alors c'est vrai que c'est une recette qu'on va énormément entendre.
Ah oui.
Ça c'est. Alors il y aura. En fait, on va entendre deux recettes. Le Slim Shady, c'est
un,
la fête.
Un peu virulent, voilà, machin, voilà. Et exubérant.
Voilà. Et Eminem marche amateur sur des trucs très sombres où il commence toujours très tranquille et après il marche, sur un Lego.
Ouais.
Ah merde, ah non, je voulais pas, tu vois. C'est toujours un peu ça, tu vois. C'est vraiment ça, tu vois. Au début, il fait là, les fleurs sont belles, il fait beau. Ah, mais non, en fait, j'ai un nuage. Ah, putain, il va plus voir. Et c'est ça, la recette d'Eminem. C'est qu'il démarre très lentement et qu'il s'énerve sur le morceau.
Il gagne en intensité.
Voilà, exactement. Et sur des musiques, bah, très rap français, presque.
Ouais, là, c'était, on est à la limite du piano violon. Ah ouais, c'est ça, piano violon triste. Hein.
Et ça, c'est une recette. Bah, t'écoutes ça, tout le monde se reconnaît. Tout
Donc là, ce morceau, c'était The Way I Am.
The Way I Am, exactement. Okay. Alors, on va parler chiffres.
Ah. Alors, Marshall Mathers LP, combien?
Je vais parler juste en première semaine. Hein. 1,76 million première semaine aux États-Unis.
C'est pas négligeable.
C'est le record du monde.
C'est pas négligeable.
Tu vois, c'est rien qu'en streaming, ce serait bien. Là, on parle de vente. Tu vois, clac,
donc de vrais clients.
Voilà, voilà, exactement. Voilà. Pas de ferme, pas de.
Voilà, c'est ça. Okay.
Tu vois, ou alors, bon, peut-être que, je sais pas, peut-être que ça existait à l'époque, bon, je sais pas. Mais voilà. C'est un record du monde. 1,76 million aux États-Unis, c'est le record du monde.
Ouais.
Donc là, t'imagines. Alors, c'est un album qui va bénéficier d'une pub. Bah, comme on dit, tu parles bien ou tu parles mal de moi tant que tu parles.
Ouais.
Et Eminem, c'est exactement ça. C'est qu'on va, il va être anti-gay, il va être anti-pop, il va être anti-black, il va être anti-tout. Dans cet album, il va prendre tout dans la gueule.
Anti-black?
Anti-black aussi, parce que les gens vont lui dire, ouais, mais il parle toujours de blanc, de sa situation, tout ça. Donc, il y a une certaine communauté black qui va lui dire, ouais, bah, il fait du rap de blanc pour les blancs,
lui il a quand même su résister à l'appel des sirènes de justement de redneck, parce qu'il aurait très bien pu devenir le rappeur des rednecks,
parce que je pense qu'il l'est pas, lui. Je pense qu'il est profondément hip-hop.
Ouais, bien sûr.
Je pense qu'Eminem, il est hip-hop, tu vois. Je veux dire, il joue pas un personnage, tu vois. C'est vraiment il joue un personnage, si, avec Slim Shady, mais il est vraiment hip-hop. Il a pas joué cette carte-là. Il en avait pas besoin, de toute façon.
Bah, il avait raison, oui.
Il en avait pas besoin. Puis il avait toute l'équipe derrière lui. Je veux dire, il a toute son équipe. C'était des Renois qui rappaient.
Ouais, il est avec Dito.
Puis il a Dr. Dre derrière qui co-signe. Ah bon, la crédibilité, tu voulais dire, toi, les gars, vous êtes où, comme dire, je vous vois pas, quoi, tu vois. Tu vois, alors, et en plus, il est marrant parce que, on lui dit qu'il est anti-gay. Boum, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait un petit duo avec Elton John.
Pour de vrai?
Oui, il y a, sur MTV, je sais plus quoi, tu vois. Donc, très fort, tu vois. Pour le deuxième, on lui dit qu'il est anti-pop. Bah, il fait la couverture de Entertainment Weekly. Alors, Entertainment Weekly, c'est l'équivalent de Public, voici, c'est pour nous. Et le troisième, boum, il fait la cover de The Source.
Voilà.
Ah, tu vois, le mec.
Comme ça, il répond à chacun des détracteurs.
Tranquillement, tu vois. Et là, forcément, ça devient compliqué pour la concurrence, tu vois. Et toujours classique, là où il est fort aussi. Et je pense que c'est sincère. C'est parce que quand tu viens de Detroit, je pense que ça doit te resserrer aussi les liens, tout ça. En 2001, il va donc, comme on a dit, il va créer avec Proof le groupe D12.
Donc Dirty Dozen.
Exactement.
Ouais, on en a parlé.
Donc en 2001, ils vont sortir un album, l'album de D12, qui va sortir sur Shady Records. Ce sera la première signature de Shady Records, son label à lui. Donc il va faire Kekro, quoi. Il fait Kekro.
Donc lui il crée son label chez Aftermath Records.
Et voilà, exactement. Alors je sais pas si c'est Aftermath ou c'est chez Interscope Records. À voir.
Non, c'est chez The Aftermath le.
D'accord, ouais, voilà. Et donc il va sortir son premier album, l'album de D12. Et donc on rappelle D12 parce qu'il en reste pas 12 hein à la fin. Ouais, moi ce que j'ai trouvé hein, c'est Eminem, donc Proof, Bizarre, Porter, Bugs, Harry Pejaou, celui-là je connaissais moins, Kuniva, Swifty, Fuse et indirectement qui tourne autour Obitrice.
Obitrice on le connaît. Ouais.
Oui, Obitrice qu'on connaît très bien, tu vois. Donc il y a le morceau qui s'appelle Purple Pills qui va sortir en single.
Mischief with a trick up his sleeve. Pull up on you like Christopher Reeves. I can't describe the vibe I get when I drive by six people and
five. Qui a dit que c'est un album d'Eminem? Qui a dit que ça sonnait comme Eminem?
Bah, il faut bien que le groupe tienne.
Exactement.
Alors, sur la figure de proue.
Ne vous voilez pas la face. Le single, c'est celui-ci. C'est très Eminem. C'est Dr. Dre, la prod, tout ça. Le reste de l'album est pas totalement comme ça. Le reste de l'album fait plus place à du rap un peu plus.
À du hip-hop plus conventionnel.
Voilà, exactement. Alors, on est sur du 2 millions. Et quand tu fais signer ton groupe, et que t'arrives à 2 millions, c'est pas mal. C'est, ouais. Franchement, c'est, ça veut dire que t'as pas le cas, parce qu'on a fait beaucoup d'MC qui signaient leur groupe après, on arrivait à des 200 000,
ouais,
300 000.
Ouais, ils faisaient 300 000.
Ouais, tu vois. Là, on est sur du 2 millions pour une compile, quoi.
Ouais.
Donc, c'est, alors, le groupe D12 va tenir jusqu'en 2006, et la mort de Proof.
La mort, dans des circonstances assez
dures.
Assez dures, hein, puisqu'il s'est pris deux ou trois balles dans la tête, quand même.
Ouais, ouais. Et ouais. Mais bon, revenons donc en mars 2002, et c'est déjà l'heure du troisième album, donc ça enchaîne, hein, ça enchaîne. Et là, c'est l'album de toutes les excentricités, c'est l'album, je pense, que ceux qui n'aiment pas Eminem détestent le plus, c'est le Eminem Show, avec...
Back again. Ah oui, bah oui. C'est le clip Batman et Robin avec Dr. Dre. Ouais. Efficace.
Alors, autant vous dire que si vous n'avez pas entendu ce morceau, c'est que vous n'étiez ou pas né.
C'est possible.
Ouais, c'est possible. C'est possible qu'on est en 2002. Donc, tu vois. Ou alors que vous étiez ailleurs, quoi.
Ouais.
Parce que ça.
Mais sans la radio, sans la télé, hein. Parce
ouais, que... voilà, tu vois. C'est carrément. Bah, il le dit lui-même, hein, c'est The Eminem Show, c'est ça.
Mais là pour moi, on est. Enfin, c'est même plus du rap, là. Là pour moi, on est dans la pop.
Ah, bien sûr. C'est ça sort au même moment que les Christina Aguilera, les Pif, les celle qui chante la blonde dans le groupe.
Bah oui.
Alors, un petit jeu. La blonde dans le groupe.
La blonde dans le groupe.
À quoi ou je sais plus, enfin, pas des trucs comme ça, mais un peu plus Gwen Stefani, c'était quoi?
Ah, No Doubt. Ouais.
C'est toute cette période-là que lui se moque de cette chanteuse, mais il fait exactement la même musique. C'est ouais. Ils se retrouvent tous dans les mêmes grès de carpet. Bonjour l'ambiance, tu vois, parce que c'est vrai qu'il aimait bien se déguiser à chaque fois, tu sais, en ces artistes pop pour se moquer, mais je pense que c'était aussi une couverture pour dire
je fais de la pop.
Ouais, voilà, exactement. Tu vois, et pour la crédibilité, tu disais, allez.
Bon. En fait, je me fous de leur gueule, mais j'adore.
Moi, cet album-là, bon, tu ne voulais pas acheter, puis c'est un album qui est agréable à écouter, hein. Franchement, des fois, je me dis Dr. Dre, c'est toujours propre de Dr. Dre. Mais à la fin, il devait galérer pour trouver des sons, quoi. Quand tu fais toujours la même chose, 4 notes, 5 notes qui redondent.
Mais non, parce que Dr. Dre, on a dit qu'il avait le nez creux pour trouver des petits poulains à développer.
Ouais, ouais.
Mais il fait la même chose sur la prod. À la fin, le mec, il touche même plus aux machines.
Ah oui,
je pense que lui, il arrive le matin, il allume le disjoncteur du studio.
Alors, et ils ont fait quoi, mes petits?
Il fait rentrer sa classe de CM2 qui font de la musique. Et après, à la fin de la journée, il relève les copies et puis il sort un album.
Ah, bien sûr, bah, exactement. Mais pour sonner toujours la même chose, parce que attention, là on est vraiment sur du même son, hein.
Ouais,
c'est de la variation des fois d'une note, quoi, tu vois. Ils sont en majeur là, sur le bon choix, ils sont en mineur, tu vois.
Là c'est pour ça que je dis c'est de la pop, c'est que la musique, tu vois, le fait que l'instru démarre,
bien sûr,
c'est vraiment The Eminem Show, donc c'est un générique, ouais, il se permet de parler avant,
complètement,
tu vois, il pète un peu les codes, parce que normalement le hip hop t'attends 2-3 mesures, allez 4 mesures, tu vois, et après boum, tu balances ton 16,
ouais, exactement.
Et là en fait le mec il fait ce qu'il veut, quoi.
Exactement. Enfin, ah mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi j'aime bien sur Talmo, j'aime bien ce morceau là avec notre petit Nate.
Ah oui, refrain man.
Ah oui. Ah oui.
Nate Dogg, bien sûr, qu'il repose en paix lui aussi.
Le Django Jack.
Refrain man.
Voilà.
Vous vous rendez compte quand même, et là je m'adresse aux auditeurs, il faut que les auditeurs comprennent la torture que ça doit être pour un rappeur comme Eminem, avec le flow qu'il a, de pas pouvoir ponctuer ses punchlines de niggas, tu vois. Ça doit être dur. Ah là, je sens quand même qu'il se presse les couilles pour pas le dire. Je pense qu'en studio.
Ou peut-être qu'ils l'ont dit.
Je pense qu'en studio, il doit balancer des morceaux, il le dit tout le temps, et quand on, là, c'est sur l'album, déconne pas, attention, c'est parti.
Non, mais alors.
Parce que même moi, en écoutant, j'avais envie de balancer un niggas toutes les deux phrases.
Et pour l'avoir vu, moi, pour avoir été en studio surtout à New York, où c'est un peu plus melting pot, il y a beaucoup de rappeurs blancs. Moi, ça me choquait en tant que français, tu vois. Il y avait des blancs qui disaient niggas, tu vois.
Ah ouais?
Et moi, il y avait les rappeurs blancs qui disaient niggas, et que, mais les blacks disaient niggas à leurs potes blancs.
Oui, ouais, ils s'appellent comme ça.
Et c'était, tu vois, et eux qui sont nés dedans. ça les choquait pas tant que ça, tu vois.
C'était d'où l'extérieur, ça peut nous choquer. Non, tant que ça reste à un niveau dans le cercle, local.
Dans le cercle. Exactement.
Ça
il fallait que ça reste dans le cercle. Après, ouais. Je pense pas qu'en radio, ils disaient ça.
Ouais.
C'est... Mais, moi, pour l'avoir vu, j'ai fait, oh putain, oui, c'est vrai, quand
même. T'imagines, tu sais, on sait que, ouais. Tu sais, quand il y a vraiment des, tu sais, les mecs qui balancent des phases, ta, à la fin, tu ponctues, limite, ça sert de point d'exclamation, ouais. Tu vois.
Ninjas.
Voilà, c'est ça. le mec, lui, il peut pas le faire. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire à la base?
Ninjas.
Ninjas.
Tu vois?
Ninjas don't give a fuck. Ok.
Tu vois? Et, alors, on en est où, là? On en est où? Alors, oui, on est avec Fenette Dog. Bah oui, Fenette Dog.
Alors, combien pour, The Eminem Show, s'il vous plaît?
Alors.
On rappelle qu'on était sur un quoi? Sur un 6 millions. Oui. Non, 12 millions worldwide.
Puis, on était sur du bien, sur du 20. Je crois qu'on était sur du 20 total, hein, je crois.
Ah oui, ouais.
Et là, alors là, on est sur du 27. 27.
Ouais, donc il fait 12, 20, 27.
Ouais, voilà.
Ah, c'est pas mal. 27 ouais, millions.
27 okay. millions. Alors que moi, c'est vrai que nous, on a eu notre petite Bruel Mania. Et ils auront leur petite Eminem Mania.
Oui, ouais. Bah, oui.
Assez comparable, je pense. Tu vois, les gens vont se l'arracher. Et à partir de là, Eminem va sortir du cadre rap. Je pense que c'est.
Non, mais voilà, les 30 ans.
Voilà. Je pense que même pour les gens qui kiffent le hip-hop, qui font du hip-hop, qui sont dans le hip-hop.
C'est plus un rappeur.
Mais vraiment, c'est
une méga star.
Voilà, c'est ça. C'est marrant, tu vois, comme un moment, tu peux switcher. Parce que Jay-Z, qui a fait des belles ventes aussi, tu vois. Mais ça reste un rappeur. Tu vois. Et c'est
un rappeur slash businessman,
mais c'est pour te dire que tu peux vite passer à autre chose, tu vois. Et attends, c'est pas le seul, parce que pour moi Snoop c'est devenu une pop star, tu vois.
Ouais, mais Snoop, c'est un personnage.
C'est voilà, exactement, tu vois. Donc c'est même pas une couleur de, c'est pas une question de couleur de peau, c'est qu'au bout d'un moment tu transcends
le statut,
c'est ça, que tu deviens autre chose en fait, tu vois. Et que
voilà, 12, 20, 27 millions sur 3 albums, ça veut dire on est quasiment à 60
ouais,
millions,
ouais,
là.
Ouais, là c'est pas mal.
Donc effectivement là t'es sur une autre magnitude,
ouais,
en fait.
Ouais, mais c'est, je pense qu'on peut pas imaginer au niveau droit, au niveau. Et pourtant ce qui est drôle, c'est qu'on ne, c'est pas un show off, tu vois. On le voit jamais
en grosse Bentley,
grosse venture, et... rien du tout. Je me suis même demandé, j'en ai parlé
mais
avec
où
ma famille,
argent.
Mais où est son argent?
Où est sa tue?
Hein, on lui cache quelque chose. Non mais vraiment.
Non, c'est vrai, ouais.
Il ne montre jamais son argent. Tu sais pas où il habite. Il est jamais en grosse caisse. Il arrive jamais. Il est toujours même habillé limite en jogging gris. Tu sais,
ouais, plutôt en vagabond. Ouais.
Putain,
ouais.
Mais 60 millions de disques. On parle juste de
sur 3 albums.
Ouais, tu vois. À moins qu'il y ait un docteur derrière.
Ouais. Si Dr. Dre a utilisé les mêmes méthodes que Suge Knight pour signer ses artistes.
Ou Baby.
Bah alors là, dans ce cas-là, oui, effectivement, il est en location.
Voilà, chez Hertz. Voilà. Et, donc voilà. J'aimerais aborder parce qu'au même moment, il va sortir donc Tupac est mort en quelle année? C'est 96.
96, septembre 96.
96.
Je fêtais sa mort il n'y a pas longtemps. Ouais. Je crois que c'était le 9 ou le 10 septembre.
Tu fêtais sa mort?
Ben, je célébrais sa mort en allumant une bougie et en regardant le ciel en disant, ah, Tupac. Ouais. Ah, si tu n'étais pas parti. Alors. Qu'est-ce que tu aurais pu sauver?
C'est la période, donc de 96 à, on va dire ça, 2003-2004, où tous les ans on va avoir des inédits Tupac. Qui vont sortir dans des compiles où ils vont prendre ces voix dégueulasses. Ils vont les mettre sur des prods. Et notamment, le summum de ça, c'est une compilation, je sais pas si vous vous rappelez, du film qui s'appelait Resurrection.
Alors moi, le film, je savais même pas que ça existait.
C'est l'histoire de Tupac. C'est sa femme qui l'a produit, hein, ce film-là.
Laquelle femme? Parce que je sais pas.
Améra, comment s'appelle?
Non, sa mère.
Sa mère. Ah, je crois que c'est sa mère qui produit.
Afeni Shakur, c'est sa mère.
Je crois que c'est ça. C'est elle qui produit le film. Ouais, c'est elle qui produit le film. Et Eminem va faire des sons pour, tu vois, comme quoi il est partout. Le mec, il rappe, ça lui suffit pas, quoi. Il faut qu'il fasse des sons pour Tupac.
Pour Tupac.
Tu vois. Et donc, avec ce titre.
Mais ça, c'est pas Tupac, ça.
Non, ça, c'est Biggie.
Ah, donc il fait un double feat.
Ouais, ouais. Et parce que c'était... Voilà. Alors, peut-être que certains se rappellent de ce titre ou pas. C'est un titre... Ce qu'on dirait aujourd'hui, on dirait putaclic. Ouais. Parce qu'ils ont mis Tupac et Biggie. C'est Tupac featuring Biggie,
ouais,
Resurrection.
Mort featuring mort.
Ce qui est quand même fort. Mais ça va cartonner, ça.
On rappelle que sur ce simple morceau, vous avez déjà le top 1 et le top 2 de Anthony.
Exactement. Donc revenez dans deux mois pour avoir le reste. D'ailleurs, je serais curieux, Anthony, de savoir quelle était la position d'Eminem dans ton classement. Je crois qu'il était dans le top 10 aussi, non?
Tu crois qu'il... Bah, ça, je peux te le dire. Attends, ouais. Vas-y, continue, ouais, je cherche en même temps.
Ah, donc voilà, donc ça s'est sorti en 2003. Et encore une fois, il y a la Eminem Touch, parce que tu te dis, ah, une compile de deux mecs morts, tu sais, 6 ans après, 7 ans après. Bah, il arrive à faire 1,6 million, tu vois. Le mec, il vend 1,6 million, c'est que tout le monde rêverait de faire ça. Lui, sur une petite compile qui sort comme ça, 1,6 million, boum, c'est la magie d'Eminem. Et alors, sur le son Eminem, ça c'est produit par Eminem. Donc c'est ça. Tu vois ? Alors là, il y a un sample. Mais sinon, quand tu regardes les caisses, c'est très Dr. Dre.
Ouais.
En fait, c'est super Dr. Dre. C'est juste plus sombre. C'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus mélodique. Mais tout, parce qu'il va produire beaucoup de titres, Eminem. Hein. Et c'est là que tu te dis. Bon, ils devaient être dans le même studio, dans les mêmes studios, avoir les mêmes.
Ils ont les mêmes bandes de son.
Voilà, ouais. Ils ont les mêmes stagiaires. Tu vois, et c'est ça. Et Eminem va faire énormément de titres, il va beaucoup cartonner au niveau de la prod. Mais bon, 1,6 million, c'est bien, mais on va revenir à des vrais chiffres. Parce que bon, c'est.
1,6 million, je connais des mêmes ouais. Fils Blic.
Qui en rêve.
Qu'on aurait célébré quand même. Hein.
Ah ouais, c'est, tu sais, qui vendrait Jay-Z. Non, mais.
Pour 1,6 million quand même.
On ne parle pas mal de Memphis Blic.
Oui, c'est vrai, pardon.
Merci. Alors, cinquième album. Et l'album porte bien son nom parce que ça s'appelle Encore. Encore. Et celui-ci va sortir deux ans. Attends, on en était donc en 2002. C'est un album qui va sortir en 2004.
Alors juste, je me permets. Hein, donc j'ai le top 50 ouais. De. Donc c'était ouais. Bien Biggie et Tupac en 1 ouais. Et 2 hein, dans son top à Anthony.
C'est le top des lecteurs.
Et Eminem est classé quatrième chez
4e,
lui.
Bah écoute,
3e chez toi et 0 chez moi. C'est parfait.
Voilà. Okay, et bah, ça lui fait une moyenne. Il est toujours dans le top 10.
Oui. C'est vrai. Bien joué. Bien joué.
Tu vois, on s'est concerté. On voulait vraiment pas qu'il sorte quoi. Donc on revient sur Encore en novembre 2004.
Ouais.
Voilà, avec encore une fois la même recette. Voilà.
Ah oui, donc le mec s'auto-référence. Hein. Il en a plus rien à foutre là.
Alors moi j'avoue, c'est certainement cette période où j'ai un peu lâché Eminem. Genre lâché l'album d'avant, bon je prête l'oreille parce que c'est quand même un carton, t'es obligé d'écouter. Et là c'est comme ça s'appelle Encore, c'est vraiment Encore.
Ouais.
C'est la même chose, t'as l'impression que c'est copier-coller de la même recette du single d'avant.
Ah oui, il en a plus rien à foutre là.
Là c'est vraiment, tu vois, et... Alors ça se ressent un peu parce qu'au niveau des ventes, attention Eminem.
Ah ça descend.
On va taper sur les doigts. Dr. Dre, il fait attention. Il a dû rentrer en studio là. Attends, j'ai appelé, j'ai un coup de fil du banquier. Il m'a dit que je pouvais pas prendre plus grand. Comment ça se fait?
Un yacht, ouais, ouais.
Je peux pas prendre plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il va faire 5 millions US et 2 millions worldwide.
Ça fait 7 millions en tout, mais par rapport à 27, c'est sûr que c'est une chute vertigineuse. Hein,
bah là, il va falloir rendre quelques petites maisons quand même.
Ouais.
Tu veux pas continuer à habiller dans 27 pavillons et.
Oh ouais, non, c'est clair, c'est clair.
Et alors. Là, Lorraine, là, ils sont forts, ils sont très très forts parce que.
Alors, comme d'habitude, des polémiques dans tous les sens.
Des polémiques dans tous les sens. Là, il insulte ses bouches à l'époque, je crois. Donc, il y a les services secrets américains qui l'interrogent. Et eux, qu'est-ce qu'ils en font, bien sûr. T'as l'impression que le FBI est bête. Ils vont interroger Eminem. Et Eminem, pour lui, c'est une.
C'est
une chance extraordinaire. Extraordinaire. Donc, ils vont en faire la pub. Et donc, ça va faire tous les. Ça va faire tous les, toutes les unes des journaux. Tu vois, c'est. C'est là qu'ils sont forts. Ils sont très très forts parce que tu sais jamais, Eminem, à quel niveau il est vrai et à ouais. Quel niveau il joue la comédie.
Ouais.
Quand tu dis fuck Bush, à quel niveau c'est calculé de dire on va le laisser parce que ça va faire du bruit et ça va faire vendre ou bah dis fuck Bush parce que tu penses fuck Bush, toi.
Non, mais là c'est clairement tout est téléguidé par le market et
voilà. Ça marche à chaque
et
fois.
Et le buzz, bah ouais.
Et ça marche à chaque fois, tu vois. Tu te demandes même si le FBI il est pas dans le marketing, tu vois. C'est
Enfin, je rappelle quand même que pour le hip-hop américain. De toute façon, choquer et avoir des problèmes de class action par des associations de protection de machin. Je veux dire, le logo parental advisory.
De base.
Il est là pour ça. Et les gamins, qu'est-ce qu'ils achetaient? Ils achetaient en priorité l'album où il y avait le logo parental advisory. Je veux dire, ça faisait partie. C'était un logo. Tu vois, le truc, c'est, ils disent des gros mots dans cet album, vas-y, je l'achète.
C'est ça. Et puis, ça fait même un peu écho à l'actualité d'aujourd'hui, tu vois, dans le rap français. c'est les polémiques,
c'est le buzz.
On en parlera jamais assez. C'est vrai que de l'extérieur, les gens disent, oh putain, merde, il aurait pas dû faire ça, le pauvre, ça va le, oh. Mais on parle de toi,
mais
ça.
En fait, mais depuis, depuis Si Dolores Tucker, qui menait justement la fronde contre les rappeurs qui traitaient les femmes de bitches, etc. Bon Thugs and Harmony avait carrément, un mot de, je crois que c'était Farrakhan.
Oui,
au début de Guiche Reguijon, ils disaient « We're not against rap, we're not against rappers, but we're against those thugs ». Et c'était ça tout le temps. Les mecs, ils samplaient les interventions télévisées pour les mettre dans les morceaux. Donc quand on est à ce niveau-là, c'est que le buzz, ça fait partie du plan média.
Et aujourd'hui, on est dans le hashtag, la tendance. Il faut être dans la tendance Twitter. T'as gagné.
Free Corleone galère un petit peu, mais il va sortir par le haut.
Exactement. Ça, pour lui.
On appelle ça, je rappelle, on appelle ça l'effet Streisand.
Exact.
C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu veux absolument qu'on ne parle pas d'un truc, si tu le dis, forcément tout le monde, même les gens qui n'étaient pas, moi je me suis mis à écouter du Free Corleone.
Pareil.
À cause de cette polémique, en disant, je vais écouter quand même.
Voilà.
Et donc ça fait du buzz.
Donc t'augmentes forcément, c'est un investissement, t'augmentes ta base.
Ouais.
Une fois que la tempête va passer, et ben, hop, voilà. Ouais. Tout simplement. Parce qu'on peut pas interdire à un artiste de s'exprimer, donc il va sortir un jour ou l'autre. Tu peux pas le boycotter, tu vois. Et donc comme je disais, ouais, c'est l'album où moi, il m'a un peu perdu. Et ce qui est rassurant, c'est que lui, bon après c'est facile pour lui. Il dit lui-même, c'est son moins bon album.
Ah, il s'est perdu tout seul aussi.
Tu vois, et qu'il y a la moitié des titres qu'il aime pas.
Sachant que l'autre moitié, c'est déjà la repompe de l'album précédent.
Alors, dans cet album, il y a une polémique avec Michael Jackson. Dans un single.
Ah oui!
Ah oui, voilà, tu vois, il
dans est... le clip,
exactement.
Il se fout de sa gueule.
Ouais, le clip se fout de sa gueule. Donc, peut-être en France, on l'a pas senti, mais aux États-Unis, c'est quelque chose de sérieux.
C'était un camouflet.
Donc, BET arrête de jouer Eminem.
Ah, carrément.
Ah oui, ils sont stoppé net. Ils ont dit, nous, on joue plus. Pourtant, il est plus blanc qu'Eminem, Max Jackson à l'époque.
Je me rappelle que BET, c'est Black Entertainment Television.
Donc, ils arrêtent de jouer. Donc, il y a une petite fronde qui se, voilà. Et Michael Jackson monte au créneau.
Ah oui.
Ah oui, il dit, non, c'est pas bien ce qu'il fait Eminem, c'est vraiment pas bien tout ça.
C'est pas bien ce qu'il fait Eminem.
Voilà. Il dit plus comme ça. Et ça va rester dans sa tête parce que Jackson, pour la vengeance, il va, avec Sony, hein, c'est pas son argent, parce que c'est plutôt l'argent de Sony, il va racheter Famous Music, qui détient les droits des chansons de Eminem. Donc en 2007, Michael Jackson va acheter les droits de la chanson. Mais parce que, on rappelle, Kanye West, on parle assez souvent vers 4-5 heures du mat.
Oui, en ce moment.
Masters, les artistes ne possèdent pas leurs masters.
Ouais.
C'est très peu. Baby.
Un vrai problème.
Baby peut-être.
Oui, Baby, je pense que c'est le seul.
Voilà. Même des artistes des autres, je pense. Et voilà. Donc tous ces masters, ça c'est peut-être pour nous compliqué à comprendre parce que ça veut dire ta musique ne t'appartient pas.
Donc rappelons ce que c'est que les masters.
Alors, les masters, c'est la bande.
La bande
originale.
C'est les originaux.
Voilà, c'est les originaux. C'est-à-dire, la propriété. C'est-à-dire, t'as enregistré 12 titres qui sont partis au pressage, qui sont dans le commerce. Là, l'original, le master, appartient à la maison de disques qui
donc
a.
C'est à partir du master qu'on fait.
Exactement.
Qu'on fabrique les albums.
Exactement. Et les compilations, et les ressorties, et les packs de Noël, et les packs de ceci.
Et c'est logique. Alors, est-ce que c'est que dans le rap? Que les artistes ne possèdent pas leur master.
T'es en maison de disque, de base, t'as pas tes masters. C'est comme ça.
Ça appartient à la maison de disque.
Ça appartient à la maison de disque. Ça ne pose pas de problème dans un sens où, comme ils font du bon taf souvent quand ça marche, t'as tes relevés, et puis t'as tes royalties, hein, donc, c'est.
Mais qu'est-ce qui se passe quand tu quittes la maison de disque, elle garde tes masters?
La maison de disque garde tes masters, c'est-à-dire que pendant 50 ans, ils peuvent sortir des compilations. Après, ça dépend des contrats.
Hein. Ouais.
Mais normalement, s'ils veulent sortir une compilation en changeant les titres tous les 2 ans, 3 ans, c'est pour ça que vous allez dans la Fnac, vous avez Marie Laforêt, compilation Intel, vous avez Patrick Bruel, compilation.
Ouais, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent.
Ils font ce qu'ils veulent avec les titres pour essayer de gagner un maximum. Et souvent, les artistes, quand la maison d'ici sort des compilations, c'est que ça veut dire que t'as pas trop d'actualité.
Ouais.
Donc ils sont pas contre non plus, tu vois.
Oui, mais alors à l'inverse, ça veut dire que si jamais tu quittes une maison de disque en claquant la porte, la maison de disque peut décider de t'enterrer littéralement et de ne plus jamais sortir ta musique.
Mais c'est ce qui arrive assez régulièrement. C'est-à-dire que MC Solar, par exemple,
MC Solar, je pensais à Solar.
Voilà, Solar qui donc Universal ou je sais plus.
Ouais, Universal.
Ouais, avec ses masters, conflit. Bah Solar a dit je sors plus rien. Et bah, Universal a dit vas-y. Tu sors plus rien. Tu peux plus rien sortir.
C'est vrai que du coup l'album, moi je pensais à Pros Combat qui était introuvable en fait.
Bien sûr.
J'avais été obligé de le pirater quoi.
Ce qui fait aussi que le premier album de Ruff est introuvable.
Le code de l'honneur. Venez sur mon stream, hein, je le mets en musique d'attente.
Parce que le master du premier album de celui-ci n'appartient pas à Ousli à Ruff.
Et l'intérêt du coup, c'est que moi je peux le mettre sur Twitch comme je veux, puisque je me ferai jamais strike.
Oui, bien sûr.
Puisque personne ne sait que l'album existe.
Alors après il y a les gens. Oh, quand même.
Franchement, oui. Si je me fais strike ma chaîne Twitch.
Non.
Parce que je joue le code de l'honneur.
Non, ça c'est clair. Non, c'est clair. Mais les gens savent que c'est un album. En fait, le code de l'honneur, c'est l'album typique. Tout le monde dit, ah, j'adore.
Personne l'écoute. Ah ouais, c'était le meilleur.
Ouais, c'est exactement ça. Tu vois. Et donc voilà, et c'est aujourd'hui, ça explique. Si vous êtes sur Twitter, la montée en puissance de Kanye West.
Ah oui, là où il pisse sur un Grammy.
Tu vois, voilà, parce que il s'est réveillé un jour et il a dû dire, comment je fais pour sortir mon album? Ah bah, tu peux pas? Ah bon? Je peux pas ressortir mon album, tu sais.
Et encore une fois, on arrive à ce problème qu'il y a notamment dans le rap US, qui est que les mecs sortent et sont produits et tout de suite touchent beaucoup d'argent
très vite.
Et que souvent, ils ont pas la maturité nécessaire.
Surtout quand tu viens de rien, quoi.
Voilà.
Surtout quand tu
viens de rien. Des avocats, un conseil juridique qui fait que, en fait, ils sont pas propriétaires de leur musique.
Exactement.
Et ça a été, de mémoire, je crois, le principal sujet de beef entre tous les artistes et leur label, hein, à un moment
souvent,
ou à un autre.
Souvent. Il y en a qui s'en est bien sorti, c'est Jay-Z, je crois, qui a réussi à récupérer tous ses masters.
Ouais.
Parce qu'il est devenu le patron de Def Jam.
Ouais, bah, pratique.
C'est pratique. Alors, bonjour Jay-Z. Bonjour Sean Carter. Alors, comment on fait? Bah, écoute, je te vends mes
masters. Alors, je suis d'accord avec moi-même.
Tu vois, voilà.
Je vais me céder mes masters à titre gratuit.
Et ne nous voilons pas la face, hein. C'est le nerf de la guerre des maisons de disques, les masters. Ouais. Je veux dire, ils avancent de l'argent. Quelque part, t'es un ouvrier.
Kanye West utilise un terme beaucoup plus dur.
Oui,
parce qu'il dit que t'es esclave de la maison de disque.
Là où il est pas honnête, Kanye. Alors, il a raison là-dessus sur la partie physique.
Quand il parle des avances, qui on rappelle sont des avances sur des ventes prévisionnelles,
exactement.
Et que si tu mites pas l'avance, si tu recoupes pas, du coup, tu dois de l'argent à ta propre maison de disque alors que c'est toi qui travailles pour elle.
Ouais, bien sûr.
C'est vrai que c'est compliqué.
Et surtout qu'il y a des arnaques, des recoupes, des trucs. Enfin, les maisons de disques, c'est comme le casino.
Ouais.
C'est eux qui gagnent.
La maison ne perd jamais.
Voilà, exactement. Mais là où, en étant dans le truc où il est pas totalement honnête, c'est que les royalties des ventes, ça représente 20% du biz. Et que sur les droits d'auteur, les droits radio, les droits tout ça, il est lui à 100%. S'il a pas signé l'édition, tu vois, les éditions, les droits d'auteur, tout ça, il y a pas la maison de disque dedans, tu vois. Et c'est là le nerf de la guerre, vraiment le nerf de la guerre. Et ça, il en parle jamais.
T'es sûr qu'il y a pas la maison de disque là-dedans?
Il peut y avoir, s'il le dit, mais même s'il
si, si tu te fais niquer, si par exemple t'acceptes le contrat de la maison de disque sans le relire.
Mais à la rigueur, ça, c'est beaucoup plus récupéré. Enfin, c'est
plus contestable.
C'est plus contestable.
Au
yeux de la loi, tu peux facilement dire j'ai écrit, parce que en fait l'auteur et les compositeurs sont très protégés quand même.
Ouais.
Il y a quand même des lois qui fait que tu peux pas avoir zéro. Mmh. Alors que ton master, tu peux avoir zéro. Non, bon. Et puis, de toute façon, c'est Kanye, 5h du mat, il est chargé. Bon. Il fait un petit tweet, bon.
On rappelle que 5h du mat en Californie, chez nous, ça fait 11h du matin. Donc,
voilà.
On est complètement réveillé et du coup, on prend les trucs en pleine gueule.
Exactement. C'est, voilà. Et donc, voilà. Ceci dit, donc on était où?
C'était la petite digression business. Hein.
Voilà, c'est normal, vous avez l'habitude.
Donc on était sur la polémique avec Michael Jackson.
Voilà, qui rachètera donc les droits d'Eminem, ce qui est cocasse. Voilà. Alors en 2004, il va lancer. Ça c'est aussi pour les OG, si vous vous rappelez, Sirius Radio.
Sirius XM, mais c'était la radio par satellite.
Exactement.
Ouais.
Feu. C'était l'ancêtre de Spotify. Aujourd'hui, on a Spotify.
Oui, c'était des radios, enfin, fallait t'abonner, quoi.
Exactement. Ouais. Alors, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Tu dis radio par satellite, et genre,
si, je crois, c'est leur radio normale aux États-Unis, je crois.
Ah, peut-être dans les voitures, tout ça, maintenant, c'est les streams.
Oui,
c'est Spotify,
le stream,
c'est Deezer, c'est, tu vois, dans ta voiture, tu mets Spotify, tu vois, alors que Sirius Radio, c'était quelque chose de lourd
Sirius
à l'époque.
Sirius XM,
tu vois, voilà. Il avait son fond d'émission qui s'appelait Shade 45 sur Sirius. Et il lançait ses exclusivités, il lançait ses artistes, il lançait ses, je sais pas si nous en France on a eu ça, ce boom de la radio par satellite. Peut-être pas sûr.
Non, radio numérique, non. Et là, on a quelqu'un de la radio
dans le
studio.
Oui, qui fait non de la tête, apparemment. Apparemment, non.
Non, mais ouais, parce qu'il y avait la qualité, elle était folle. Il y avait aussi, du coup, une ouverture totale. Aux États-Unis, ils avaient 170 000 stations.
Ah, bien sûr, déjà de base.
Ouais, déjà, le territoire est grand, mais en plus, avec les trucs Sirius XM, là, c'était au-dessus de la bande FM.
Je me rappelle que je, avec un VPN, j'allais sur les radios satellites américaines pour écouter les nouveautés. Et oui, t'étais obligé de faire ça. Donc t'étais content.
Quel pirate.
J'étais un fou.
Donc ouais, c'est vrai que en France, ça a pas percé la radio numérique.
Alors ils ont essayé. Je sais qu'ils ont essayé avec.
On a eu la télé numérique terrestre, la TNT, mais on n'a pas eu la.
Ils ont essayé.
Si. Oui. Ah, il y a Gislain. Alors point radio. Deuxième digression.
Voilà. Non, il fait, en gros, c'est parce que les grands groupes de radio ont jamais voulu se mettre sur la radio numérique pour pas être pour pas être mis en concurrence avec toutes les petites radios qui peuvent se monter chez n'importe qui. En gros, nous, on pourrait faire une radio, se mettre sur la radio numérique.
Radio Six and
Dice. Et Energy, ils ont surtout pas envie d'être mis sur le même pied que ces mecs-là, tu vois. Et du coup, bah, ils ont dit, non, nous, ça nous intéresse pas trop la radio. Et en fait, si t'as pas les grands groupes sur la radio numérique, bah, la radio numérique n'existe pas. Donc, en fait, ils ont niqué le système comme ça. Voilà.
On m'aurait menti.
Non, mais du coup, je suis pas surpris.
C'est encore une question d'argent, tu vas nous dire.
Ah, hein, je suis pas surpris. C'est comme au début où le Wi-Fi a commencé à sortir et que Orange a vendu les accès Wi-Fi dans les endroits publics. Il fallait payer chez Orange pour avoir du Wi-Fi. Là, c'est vraiment des enculés, hein, quand même.
C'est vrai, c'est vrai.
Ah, c'est incroyable.
Vrai, c'est, vrai. Okay. C'est là que tu te dis que le streaming, personne l'a vu venir en France.
Vraiment. Et ils se le sont pris vraiment.
Même si Deezer, c'est français, Deezer.
Oui.
On peut saluer quand même Deezer qui fait une bonne petite résistance.
Oui, enfin Deezer, quand on leur dit sortez la musique de Fritz Corleone, ils disent d'accord.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toi, tu te demandes.
Et c'est revenu.
Bon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc voilà, donc il lancera ça. On en parlera pas beaucoup de Sirius Radio, mais je sais qu'à l'époque c'était quelque chose d'énorme et il y avait même des arguments marketing de vente de voitures aux États-Unis et avec le Sirius radio de la oui bien sûr c'était quelque chose de
vu la taille du territoire la radio par satellite c'est pas débile en fait
mais grave complètement donc une grosse tournée en 2005 moi je l'ai vu à Bercy le Hangar Management Tour je sais pas si tu l'as vu toi
non bah tu rigoles ou quoi. t'es malade une tournée de Eminem super
alors attends il y avait G-Unit Lil Jon bon.
Bah pourquoi pas? What? Non, mais pourquoi pas?
50 Cent, Obitrice, il y avait le Cypress Hill en première partie.
Cypress Hill,
ils font des premières parties. Attends, c'était un tour de bâtard. Moi, j'avais été là, j'ai vu ça. Ça durait 2h30. Putain, tu voyais tout le top US, quoi. Tu vois,
Ah,
c'était.
Moi, ils sont passés à Bercy, je sais même pas.
Ils sont passés à Bercy. Ils ont fait deux dates. J'avais été avec le frangin, donc à l'époque. Alors, oui, alors, lui, va aller en rehab à ce moment-là, juste après. Alors,
donc rehab en désintox.
Voilà, exactement. Et lui, il va y aller pour, ça c'est drôle toujours, c'est pour la sleep medication addiction.
Donc il était accro à des somnifères.
J'adore parce que, en fait, aux États-Unis, ils sont toujours addiction, mais jamais à la drogue. Tu sais, c'est jamais marqué cocaïne ou héroïne, c'est toujours Valium ou Doliprane. T'sais. Je vais aller en rehab.
Non, mais le truc, les opiacés là qui prennent là, ah, oui, les opioïdes même.
Oui. Alors ça c'est autre chose. Ça c'est
tramadol et tout ça là.
Ça c'est vrai que oui, mais lui c'était pour la sleep medication.
Ouais, mais c'est du Valium quoi. C'est,
ouais voilà.
C'est des antidépresseurs.
Alors que. Tout le monde sait que Eminem il s'est chargé certainement des pilules, des trucs, des etc.
Ouais, j'étais surpris qu'on en ait pas parlé avant parce que
oui.
Dès le premier album, il avait vraiment l'impression de prendre des drogues.
Les pochettes, c'est relapse, c'est rehab, c'est, y a toujours des c'est son fond de commerce, tu vois. C'est un peu comme toujours aujourd'hui aussi. Hein, c'est le fond de commerce des SoundCloud MC, c'est la drogue. C'est,
Ah oui, le lean.
Voilà, exactement. Donc pour dire ceci, alors il y aura suite à cette rehab, donc, il y aurait des rumeurs sur sa retraite. On entendra beaucoup parler de, Eminem, il est fatigué, Eminem, il a tout fait, il a vendu tellement de disques, bon, il s'en fout, il arrête. Et ils vont sortir même un best-of. Toi, qu'on en parlait tout à l'heure. La maison de disques qui possède les masters va sortir un best-of. Et là, tu te dis, bon, bah, Eminem, ça y est, maintenant, il en a plus rien à foutre.
En quelle année il sort un best-of?
Il sort un best-of en 2005.
Donc, en fait, au bout de quoi? De trois albums, il y a un best-of?
Ouais, trois, quatre albums, ils vont sortir un best-of, donc.
Ok. Et puis la fin de carrière est rapide. Hein.
Plus, tu pouvais penser ça, tu pouvais penser des étoiles filantes. Le mec, il était tellement haut, tellement dans les étoiles que bon, tu vois. Alors, ce petit Greatest Hit, il va vendre 7 millions.
C'est pas mal.
Donc il y a quand même 7 millions de mecs qui ont pas acheté les albums. Ah bah tu sais, il y a un best-of.
Ah bah je veux le prendre.
Je veux le prendre, ça me permettra de pas acheter le reste, tu vois. Mais bon, je suis mauvaise langue parce qu'il y a quand même un morceau qui vaut le coup, c'est celui-ci. Few chunks on them shoestrings showing I was dehydrated to the beat vibrated I was revived as soon as this BS gyrated them hips and licked them lips
toujours la même ambiance hein.
I had to get Nate Dogg get his thing some shit two to the one from the one to the three I like the
pussy and I like the tree smoke so much weed you wouldn't love ça c'est Nate Dogg
ouais.
Il a un cancer de la gorge ou quoi
c'était Nate Dogg
ah ouais I met a bad bitch last night in the D let me tell you how I made a leave with me. C'est chelou. On dirait pas lui.
heard motherfuckers talk, seen them drop. If I ain't got a weapon, I'm gonna pick up a rock. And when I bust your ass, I'm gonna
continue. On venait un peu quand même.
Ah, vite fait, hein. Ah ouais. Moi, tu m'aurais pas dit c'est Nate Dogg, j'aurais dit ouais, d'accord.
Ah ouais. Ah ouais, tu vois.
Tu m'aurais dit c'est Django Jack, j'aurais fait ouais, ok. Ouais, tu vois.
Là, là.
Ah, là ouais, là, d'accord.
Là, tu retrouves le petit Nate.
Ah.
Ah là là. Eh, pour vous dire.
Donc
que
ça, c'était sur le best-of.
Parce qu'ils sont malins, il y a toujours un ou deux petits
inédits. D'accord.
Donc il y avait celui-ci, puis que comme on aime bien Nate Dogg, ben on le vous le met, tu vois, voilà. Et donc on arrive en 2006.
Donc ouais, on en a parlé un petit peu avant.
Par exemple, mort de proof.
Mort de proof de D12.
Voilà. Assassiné. Bon, voilà. Alors on va faire un petit, on va pas faire un spécial ou un interlude de proof, mais on va parler de proof quand même quelques temps, tu vois. Bon, excellent MC. Je pense que pour même pour moi, à un moment, c'était presque la crédibilité rap de Eminem. Il était, de toute façon, Proof est toujours, il y avait Eminem et Proof, c'est tout le temps ensemble. Mm-hmm. Tout le temps ensemble, tout le temps ensemble, tu vois. Proof, c'est un MC, c'est, t'as presque l'impression qu'il s'est sacrifié. Il a sacrifié sa carrière au profit d'Eminem, tu vois.
Eminem puisse avoir la scène.
Comme un peu Memphis Bleek au profit de Jay-Z.
Ah, quel escroc, putain. Ok.
Tu vois, c'est vrai, hein, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, il le dira lui-même, il ne voudra jamais signer sur Shady Records.
C'est vrai, c'est marrant,
ouais,
ça.
C'est marrant, ça. Tu te dis, bah, non, parce qu'il ne voulait pas que Memphis Bleek. Il voulait pas que les gens se disent, ah, mais c'est le gars d'Eminem, il sort un album sur Shady.
Tu vois, donc, il voulait pas qu'Eminem dise, as long as I'm alive, voilà, he's a millionaire. Voilà. Ouais.
Ce qui était vrai aussi, parce que, de toute façon, il était sur tous les albums qui vendaient des millions. Ouais. Sur chaque album d'Eminem, il y avait Proof, de toute façon. Il y a toujours un titre. Donc, tu vois, et sur toutes les tournées, sur toutes le, et, d'ailleurs, on va mettre un titre de Proof, pour vous dire la qualité de la pochette.
Oh,
ça, c'est sorti en 2002.
Quel enfer.
Ouais. Acid Testing.
Bah, c'était Proof. C'est du graphe, hein.
C'est du graphe. Alors, nous, on dit quel enfer, mais si vous êtes dans le graphe, dans le tag, tout ça, c'est
ah ouais, bon. Le lettrage, là, j'arrive ouais. Même pas. Attends, c'est quoi qui est écrit en haut, là? C'est quoi le nom du truc?
Bon, c'est, Acid Testing.
Non.
Enfin, en bas, c'est marqué
Acid Testing. Non, en haut.
Ils veulent dire certainement, viens, rendez-vous à midi, c'est midi 30.
Ah, non, franchement, le lettrage ouais. Est tellement vénère ouais. Que j'arrive même pas ouais. À lire.
Et donc ça va sortir en 2002, c'est un EP, qui est sorti en indé. Ça, alors, c'est ma petite pièce, parce que ça, pour le trouver maintenant, faut y aller, hein. Et il va sortir donc avec ce titre-là.
Sleeping Kool-Aid, non?
School, of course, I was the best in the lunchroom. Don't make me get up out my seat, bitch, and punch you. A freestyle for fun, but right for wealth.
L'enregistré dans ta salle de bain ou quoi?
Alors, c'est en 2002 qui a été vinyle. Donc, ouais. Forcément, après les consoles de Dr. Dre, ça fait une petite différence, tu vois. Et donc, voilà, et ça, c'est Proof. C'est-à-dire qu'il va faire de l'indé, de chez indé. Alors, c'est marrant parce qu'il y a featuring Eminem, c'est Eminem qui fait des Dirty Harry, tu vois. Mais il sera pas cité par Eminem dessus.
Il est pas crédité.
Il est pas crédité, tu vois.
Ouais.
Et je pense que c'est même Eminem respecter ça. Il devait lui dire, écoute, y a pas de souci, je respecte. Alors, ça va être que des fous, hein. Les chiffres, ils sont mais.
Non, mais mec, bon, déjà. Ouais. Déjà, le nom, c'est Proof.
Fallait savoir que c'était.
Off G12, voilà. Donc, tu comprends que. Ouais. Et puis, non, mais la qualité de l'image et tout, on dirait que c'est comme moi quand je zoome sur un truc que j'ai fait sous Paint.
Ouais, bah, c'est ça.
C'est moche, quoi. Enfin, ouais, vraiment, c'est très laid.
Ouais. Et, donc voilà. Donc, ça résume bien la carrière de Proof. Proof, c'est un MC. Tout le monde reconnaît, c'est un MC sans le MC. C'est, de toute façon, il y a des images, hein, où on le voit.
Non, mais techniquement, le mec est fort, mais, charismatiquement parlant.
Bah, il a, je pense qu'il a décidé, avec Eminem, de se ranger derrière le général, tu vois. Il s'est dit, bah, écoute, je suis là avec toi, comme un Pippen derrière Jordan.
Ouais.
Ben voilà, écoute, on fait une carrière à deux. Moi, je te back, je te soutiens, je suis là avec moi, tu sais, avec moi, je connais tous tes textes, je connais tout ce que tu fais, tout ce que, voilà. Et puis, on fait une carrière ensemble. C'est une sorte de duo, tu vois. Ouais. Et Eminem, en contrepartie, ben, m'éprouve partout. Et le met bien, et, tu sais, sans lui donner de l'argent, mais, on l'aimait bien artistiquement en lui disant bah, je t'invite sur un titre, deux titres, trois titres en tournée et tu toucheras tes royalties. Et mais lui malheureusement en plus il va se faire assassiner le pauvre, tu vois.
Ouais.
Donc bon, c'est une histoire assez triste et Eminem ça va beaucoup le toucher. Ça va vraiment beaucoup le toucher. Tu perds ton meilleur ami quand même et certainement ouais. à ce niveau-là où t'es au top de la montagne.
Ouais.
Des amis t'en as pas beaucoup. Hein.
Ouais.
Je veux dire
ouais.
Tu as pas de je vais en faire des potes. Je pense que c'était même quasiment son seul ami quoi, tu vois.
Ouais, pas d'enfance ouais, vraiment.
Voilà.
Ouais.
Et donc voilà, donc bah, il est quand même à l'époque temps de repartir dans le business et c'est en 2007, donc on est quand même sur trois attends dernier album 2004. Hein. Là on est en 2007,
Donc il a rien sorti.
Il a rien sorti à part un best-of.
Ok.
Et depuis, donc entre temps, 50 Cent va sortir un album. Alors 50 Cent, on rappelle, signature Eminem, Dr. Dre.
Ouais. Chez The Aftermath.
Chez The Aftermath, voilà, exactement. Et il va annoncer qu'après quelques soucis personnels, il est enfin sur son sixième album. Tu vois.
Ouais.
Alors on est en 2007, hein. 2008, rien. Il y a rien qui va sortir.
Ah putain, il a fait, il a fait une detox,
tu vois. Tu vois, là, certainement pour des, je sais pas, des effets algans. Tu vois. Et un jour de mai, le 19 exactement, 2019, va sortir.
2009, ouais.
2009, pardon, 2009, ce morceau. Slim, shady. So crack a bottle, let your body waddle. Don't act like a snobby model, you just hit the lotto. Uh-oh, uh-oh, bitches hopping in my Tahoe. Got one rotten shotgun, ain't no not one of them got clothes. Now where's the rubbers? Who got the rubbers? I noticed there's so many of them in this Philly, not that many of us. And ladies love us, my posse's kicking up dust. It's on to the break of dawn and we're starting this party from dust. Okay, let's go. Back with Andre the Giant, Mr. Elephant. On retrouve le petit Eminem qui...
Dommage qu'il rappe sur cette chanson.
Alors,
l'instru était pas mal.
Alors, cette instru est pas mal, d'ailleurs, elle est tellement pas mal que je rappelle qu'on avait utilisé le même sample qui est Mike Brandt.
C'est du Mike Brandt.
Étant, l'ombre étant son manteau, 5 ans avant. Oui, souvenez-vous. 5 ans avant, avec Avoc. Donc,
Avoc de Mobb Deep.
Avoc de Mobb Deep. Petite auto-promo. Vous pouvez bien sûr aller écouter cette chanson sur toutes les plateformes de streaming. Et même Deezer. Tu vois, tu vois.
Donc voilà. ça c'est
donc ça, c'est là, le single.
Donc toi, vous là chez Get Large, vous aviez utilisé le même sample.
Ouais, le même sample. La chanson se ressemble beaucoup, sauf que là, c'est Dre qui la prod. Donc
est-ce que vous aviez vendu combien
alors,
est-ce que vous aviez fait autant de platines?
C'est là que les chiffres font.
C'est pas
font.
Le sample qui fait le
voilà, tu vois, exactement. Comme quoi, tu vois, les chiffres ne veulent pas grand chose. Ne veulent pas dire grand chose en fait. Alors, bien sûr, ça va vendre combien? Je suis super dans mes chiffres là.
5 au total.
5 millions au total. Alors.
3 US, 2 worldwide.
Alors, ça peut paraître peu, mais on est en 2005. Hein.
Dire, on est en plein dans la crise là. Ouais.
Là je vais te dire, c'est quand t'achètes un CD, les gens te regardent bizarre quoi, presque. Tu vois, t'achètes pas de CD à cette époque-là, tu télécharges.
Tu télécharges comme un goré.
Enfin,
ouais.
Tu lances ton téléchargement le soir.
Ouais. Puis tu reviens le lendemain matin.
Puis tu vois, si t'as de la chance.
Et puis une fois sur deux, en plus, c'était un bootleg chelou, voilà, prémixé. Et t'as pas les mêmes morceaux qu'en vrai.
Plus les bootlegs que tu trouves directement dans la rue.
Ouais.
Qu'à 3-4 dollars, t'as des bootlegs, les gens sont pressés pour toi. Donc lui, il va en revendre quand même.
Donc 5 millions.
Ouais. Oui. Alors attends, je suis perdu dans mes chiffres.
Mais du coup, on voit bien que pour les maisons de disques, ça a été un enfer en fait. Parce que tu passes de 27 millions à 5 millions.
Ouais.
C'est toujours 5 millions, c'est pas de la merde.
Bien sûr, mais ça veut dire qu'en quelques
tu
années.
Attends, par 5, quoi.
Mais on était dans. Moi, je me rappelle ces chiffres-là, c'est l'universel, c'était moins 40% par an.
Oh putain.
T'imagines moins 40% par an? Ce que c'est? C'était à l'époque, c'était l'industrie du disque qui était mort, était à genoux. C'était genre, allez-y, coupez-moi la tête. c'était vraiment ça. Hein.
Ouais.
T'allais chez Universal. Qui était un building, à la fois c'était le building universal, on disait, t'imagines, à New York. Et bah, tu rentrais dedans, t'avais des étages vides, et t'allais à l'étage 6, qui lui avait quelques bureaux.
Ouais.
C'était vraiment une perdition totale. Je pense que même eux,
on
savait pas, tu vois. Ouais. Et c'est, l'histoire est belle, hein, parce qu'après tout ce qui va se passer avec, Napster, donc il va devenir Napster, c'est un peu le début de tout ce qui va suivre après, les Spotify et tout ça quelque part, tu vois. C'est alors que tout le monde était contre au début, tu disais mais comment tu veux gagner de l'argent avec du streaming?
Ouais.
Qui va payer un abonnement? Et en fait, c'était la bonne solution, tu vois. Alors en fin de compte.
Ouais, après bon bah oui, à l'époque il fallait vraiment
il fallait être un super visionnaire, hein, tu vois.
Pour voir les changements des habitudes de consommation, fallait être un prophète même là,
je pense que c'est même impossible, c'est un coup de chance. Je veux dire au bout d'un moment, alors il y aura toujours de la musique. Il y aura toujours les droits d'auteur, il y aura toujours, ça existera toujours.
Non, mais d'ailleurs, tu vois que finalement, les plateformes de streaming, il n'y en a aucune qui a été créée par une maison de disques.
Ah non, bien sûr, aucune.
Elles avaient les droits, elles avaient la musique, elles n'ont même pas pensé à ce modèle-là, en fait.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, alors, on disait.
Donc là, l'album s'appelle Relapse.
Exactement.
Donc Relapse, c'est la rechute, hein.
Exactement. Alors, c'est un album qui, alors, les thèmes, c'est simple, c'est Aurore, Drug Rehabilitation et Relapse. Comme ça, c'est clair, c'est un album qui tourne autour de ça. Alors, c'est un bon album, hein, pour un retour. Mais Eminem, il dira lui-même il est pas satisfait de cet album, tu vois. Et ce qui est drôle, si vous vous en rappelez, c'est qu'il va faire un MTV Awards et il y a Sacha Baron Cohen, donc
Ali G,
voilà, Borat
ouais.
Qui va descendre du ciel, tu vois, et qui va tomber sur Eminem, je sais pas, avec ses fesses. Et donc il va avoir les fesses de Borat qui vont tomber sur la tête d'Eminem. Allez voir
Je me rappelle
pas ça. Non. Et donc Eminem fait l'offusqué, mais allez voir les images sur YouTube, elles sont énormes. Donc il fait offusquer, il le barre et tout, il commence à, et il se barre de MTV Awards. Et à l'époque, tu sais pas si c'est sérieux ou pas. Tu dis putain, ouais, le Sacha, parce que Sacha Baron Cohen, c'était vraiment le mec qui foutait le bordel partout où il allait. C'était vraiment un gros bordel.
Et je sais pas pourquoi tu parles au passé, hein, il continue.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais à l'époque, c'était sur son môme, quoi. C'est les Borat, c'est les... Et Eminem même se barre. Et t'as les présentateurs qui vont écouter, Eminem sera pas là ce soir, il va pas chanter. Il va faire tout ce qui est prévu, putain. Tu vois. Et deux jours après, Eminem dirait que c'est un prank et qu'ils avaient tout monté avec Sacha Baron Cohen encore une fois, tu vois.
Mais ils ont quand même planté les MTV.
Oui, mais c'est pas grave parce que ça fait tellement parler.
D'accord.
Que tu vois, c'est que c'est pas grave, et qu'après il reviendra faire un show et autre chose. Mais c'est pour dire le niveau.
Bah, c'est le buzz.
Dans lequel on est manipulé aussi, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on nous met, tu sais, bah, en fait, non, les gars, vous dormez pas. Dans deux jours, ils vont dire que tout est bien, tu vois.
C'est une blague, ouais.
Et donc, alors, il voulait faire Relapse 2. Donc, d'ailleurs, il va sortir, oui, c'est vrai, parce que il faut cacher quand même un petit peu. Il va sortir Relapse 2.refill.
Ok.
Tu vois, même, alors, je l'avoue, celui-là, je l'ai pas acheté. Parce que bon, à un moment, faut arrêter. C'est 7 titres inédits, tu vois. Et en même temps, je suis mauvaise langue parce que, il y a ce titre qui va énormément tourner.
Oh là là. On a toujours pas fait d'émission sur lui, hein.
Non, pas encore, on le fera.
C'est Drake. Pour les gens qui se demandent si. Qui est donc cet artiste qui chantonne là? Ah, une petite sirène.
Alors, c'est un gros carton, ça.
Ce morceau-là, à aujourd'hui, là, il coûterait 170 millions de dollars parce que c'est un featuring Drake, Kanye West et Lil Wayne.
Ouais.
Ça va.
D'ailleurs, moi, la première fois que j'ai entendu, je pensais que c'était un remix avec Eminem qui posait sur le morceau.
Ouais.
Totalement, je pensais que c'est un morceau de Drake, en fait, tu vois. Et non, c'est un morceau d'Eminem avec tous ces gens-là sur l'album de Refill, donc Relapse Refill, tu vois. Alors, c'est malin parce que il rajoute 1,5 million avec un titre, tu vois. Et ce titre-là, il a quand même tourné, hein, vraiment en club et tout ça. C'était un gros morceau de l'année. On est quoi là? 2010.
2010, ouais.
C'est vrai, ça me paraît tellement, hier. Ça me paraît vraiment, c'est il y a pas longtemps, mais en fait c'est il y a 10 ans, quoi.
Ouais. C'est parce que il y avait déjà le style de la musique du rap qu'on écoute maintenant,
ouais,
avec avec des charlets en cascade.
Je sais pas si on écoute encore maintenant ou c'était il y a 3-4 ans. C'est ça a beaucoup changé. Tu vois,
pas tant que ça, en tout cas, tu vois les charlets avec le note repeat au 64e de note là, et tu vois, c'est encore actuel, en fait.
C'est vrai que c'est parce que c'est Drake.
Oui.
Parce que c'est Drake et Lil Wayne, tu vois, c'est le style de, tu vois. Et alors, en avril, il va quand même tuer, il n'y a pas de Relapse 2. Donc c'est normal, tu vois. Mais il va y avoir Recovery. Ah. Alors là, on s'y perd, mais franchement. Entre Refill, Relapse, Recovery. Encore, tu sais plus là où t'es. Tu vois, au niveau des titres, tu vois. Donc Recovery va sortir en juin 2010. Et là, il enchaîne, hein. Le mec s'est arrêté 8 ans. Et là, il s'est dit, bon, c'est bon, je suis chaud, je suis chargé.
J'ai plus le temps.
J'ai vu que quand je travaillais plus, il n'y a plus rien qui rentre. Il va sortir Recovery donc en juin 2010, son 7e album avec ce titre. Alors,
oui.
Autant vous dire que ma femme adore ce morceau.
Mais pourquoi? Mais quel est donc le featuring?
C'est Riri.
Évidemment.
C'est Rihanna. Et là, c'est là que tu peux que respecter l'aspect business, parce que Eminem le fait tard. Le tiki tiki, le Slim Shady, c'est fini maintenant. Il va nous pondre que des morceaux comme ça.
Des morceaux, on dirait du James Blunt.
Exactement. De la mélancolie. Qui commence doucement, et cap qui marche sur un Lego, qui s'énerve. Et une chanteuse au refrain. Ça va être comme ça. Et attention, et que des cartons.
Ouais.
Que des cartons. C'est-à-dire que là, on est sur du... on est sur du combien, là?
5.
On est sur du... Ah ouais, alors, il va faire 800 000 première semaine.
C'est pas négligeable.
Voilà. Il va faire 5 semaines numéro 1.
C'est pas négligeable aussi. Hein.
3 millions US et 2 millions worldwide.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on est encore sur le 7e album à 5 millions.
Ouais, c'est pas mal.
C'est quand même pas mal. Et puis là, bon, ça a tellement tourné, ça, que pff, je sais même pas. C'est...
Non, mais là encore, il a. Enfin, c'est plus du hip-hop, là. Ouais.
Non, non, non. C'est, là, vraiment, ouais. C'est vraiment plus du hip-hop. Alors, je pense que là, on est passé sur autre chose. C'est de la pop. De toute façon, il sera toujours en featuring. Et puis, il va tout gagner, là. Les American Music Awards, les Billboard Awards, les Grammy Awards, les BET Awards, les MTV Awards. En 2010, c'est ça, 2012 même, c'est ça
2010, 2010.
Il est partout. Il est ouais. partout. C'est-à-dire, le mec, 7e album, il est partout, partout, partout. Et je pense que. Nous en France, c'est à partir de là qu'on s'en est pas rendu compte peut-être. À point,
nous on avait déjà lâché.
On avait déjà lâché, tu vois. Ouais. Alors que là-bas, c'était encore une vague, la vague Eminem, la vague marketing, parce que c'est beaucoup de marketing, c'est une grosse machine derrière.
Mais là c'est quand même considéré à ce moment-là, il est de retour. C'est un retour.
C'est un retour depuis 2-3 albums, parce qu'il a quand même vendu 5 sur celui d'avant. Ouais. Il a quand même vendu 2, tu sais. Donc c'est un retour par rapport à, tu sais, c'est le nouveau Eminem en fait.
Ouais, d'accord.
C'est le Eminem un peu plus propre, un peu moins vulgaire, un peu moins, tu vois.
Il a toujours les cheveux blonds à ce moment-là ou il a déjà changé de cheveux?
Eh, c'est une bonne question, tiens. Ça pourrait
savoir si, ouais. Genre, ça y est, je suis mature.
Ouais, ça y est, voilà. Ouais. Fini les teintures. Ouais. D'ailleurs, mon coiffeur m'a conseillé d'arrêter. Et que c'était pas bon. Et, alors, c'est marrant parce que il est tellement haut, tellement loin que on pourrait croire que c'est fini l'indépendant. Il a fini ça avec son groupe d'étoiles, c'est fini. Et non, parce que il va quand même avec, Royce da 5'9, donc on a parlé au début, et son groupe Bat Mill Evil, il va sortir un petit EP, en indé. Shady dead at the past, so that basically resurrected my cash flow. I might rap tight as the snatch of a fat dyke, though I ain't rap tight. My blood type's the 80s, my 90s was like the Navy, you was like the Brady's. You still fly kites daily. Catch me in my Mercedes, bumping ice ice, baby screaming shady till I die. Like I have a paradise, life's crazy, so I live it till the fullest. Et donc, alors c'est un petit, c'est un EP, hein, je pense, qui va sortir.
Ouais.
Et qui va quand même faire gold, hein. Tu vois, 180 000 première semaine.
Ouais, c'est bien.
Et je pense qu'on n'est pas beaucoup à le savoir, à l'avoir eu celui-là. Hein, tu vois. Donc c'est pour dire la force de frappe. En indépendant, ouais. Il sort ça, un EP, il fait 500 000 gold. Et alors, ce morceau, bon, on va pas l'écouter jusqu'au bout, mais il y a Nate Dogg, non, je pense qu'il est. Je sais plus s'il est dispo ou pas. Mais ils ont mis une copie de Nate Dogg qui est complètement à l'incident. Je pense qu'il va arriver là, je pense.
Ouais, parce qu'il était déjà mort là quand même.
Il était déjà mort là.
Ah non, il était pas mort.
Je sais plus, je sais plus.
Est-ce qu'il est mort, Nate Dogg? Ah bah oui.
Hallucinant. Hallucinant.
Donc ça c'est pas Nate Dogg, hein.
Non, c'est pas Nate Dogg. C'est Nick Jurgo Jack non plus.
Non, il est mort en 2011. Putain, déjà 2011.
Eh bah, tu vois, c'est ça, parce que c'est sorti en 2011, ça, tu vois.
Ouais.
Donc ça devait être à peu près là-dedans, ou alors il était très malade de son Nate Dogg, ouais. À l'époque. Mais c'est bluffant de ressemblance. Et alors en 2011, il va décider d'activer un peu son label, son label Shady Records. Il va signer Yellow Wolf. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez de Yellow Wolf.
Yellow Wolf, ça me dit quelque chose, moi.
Ouais, on a tout le monde. Ça, c'est exactement la réponse ouais. Que tout le monde fait. Ça me dit quelque chose, Yellow Wolf.
Yellow Wolf, ça me dit.
Mais en fait, il a pas fait grand chose. Ouais. Il sera en fuite à droite à gauche. Il vient de l'Alabama, lui, tu vois. Et alors, il y a pour ceux qui connaissent un certain Mog, pour nous en dire un peu plus, c'est il a sorti des compiles qui s'appellent Trunk Music. Et un album chez Eddie qui s'appelle Radioactive, qui a fait un peu de bruit, c'est pour ça qu'on est le nom. Mais il va surtout signer le super groupe Slaughterhouse.
Slaughterhouse, hein, voilà. L'abattoir.
Exactement. Alors dans ce groupe, il y a pas mal de revanchards, on va dire, de l'industrie, parce qu'il y aura Joe Budden, Joel Ortiz, Royce et un West Coast star.
Mon gars, bien sûr, voilà, mon gars, sûr, Crookedai.
Eh oui, tu vois.
Crookedai, le meilleur MC des Low Life, hein, je le dis. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est parti en solo et qu'il a rien fait. Mais à un moment donné, il était tête de pont chez Defro Records.
C'est vrai, exactement. Moi, cette période,
Snoop, quand il n'y avait plus personne chez Defro.
Exactement. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il soit resté à ce point-là. Il était quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il est resté, lui, dans le bateau?
Crookedai?
Ouais.
Bah, en fait, lui, il venait c'était les petits de C-Style. Donc, il venait de la 19e rue. Donc ils avaient jamais été réellement
au-delà de la 20e
chez Defro. Non mais pour de vrai. Pour de vrai, puisque Snoop et Warren G c'était la 21e.
Ça c'est ouf hein, quand tu vois deux reprises.
Et en fait dans Defro Records à l'époque, t'avais le Dog Pound, t'avais ouais. Tout ça. Par contre ce qui était devenu le LBC Crew, ils étaient pas dedans. Donc en fait quand il y a eu un appel d'air toutes les stars sont parties, que Dre est parti, que Snoop est parti, qu'il y avait plus personne, en fait ben là il y a eu de la place pour des rappeurs avec moins de d'aura et il y avait Crookedai qui est vraiment un très très bon MC.
Ah non, c'est un super MC. Non, c'est un super super MC.
Il tord n'importe quel instrument. Ouais.
Et donc il fait partie de ce super groupe et donc ils vont signer sur Shady Records avec un bon album hein. L'album il est ici. Cet album Ça s'appelle Our House, tu vois. Ça va sortir en 2012 avec ce titre.
Our House.
Ok. Alors, autant vous dire que les mecs, ils en avaient marre de bouffer du riz. Parce que ça, c'est très putassier, c'est avec.
Ah, bah là ouais. C'est qui?
C'est avec Silo. Silo voilà. Green.
Silo Green de Goodima. Voilà. Ben.
On en parle régulièrement quand même, assez régulièrement en fait. Hein.
De Silo Green?
Ouais, non, on en a parlé deux, trois fois.
Mais déjà. On a toujours pas fait d'émission sur Outcast.
Non, non, bien sûr. Bah, ça, on se la garde pour la 50e. Et donc voilà. On l'entend un peu derrière, mais écoutez cet album, ça kick lourd. Mais tous, ils sont tous au top de leur art et ça kick lourd. Alors j'ai mis celui-ci parce que c'est le single et que tu sens qu'il fallait vendre quelques pièces quand même, parce qu'on va pas se réunir faire un album chez Shady Records et pas vendre de disques. Ce serait, tu vois, une malédiction.
Ce serait dommage,
tu vois. Alors, bon, ils vont faire 200 000. Bon, c'est pas non plus extraordinaire.
Ouais, mais ceci étant, je suis désolé. C'est chaque membre de ce groupe est un rappeur confirmé.
Bien sûr, ouais, complètement.
Mais c'est
ouais.
Des rappeurs qui n'ont rien fait. Enfin,
c'est des rappeurs qui n'ont jamais vendu énormément. Ouais,
c'est clair, c'est des seconds couteaux, mais ouais. Qui ont une aura. Ça fait un peu les Expendables, tu vois.
Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
Mecs,
surtout 10 ans après, tu vois.
Ouais, en plus, ouais. Moi, Crocodile, je le connais bien, mais ouais. Je comprends tout à fait que tu dises le nom, les gens font
ouais.
Qui
ouais, bien sûr. Mais complètement, bien sûr. Mais tous, hein, sont tous à ce niveau-là. Et. Alors c'est aussi c'est là que je pense qu'il est sincère Eminem. Quand il les signe, je pense qu'il est un kiffeur, il kiffe. Il sait que c'est des purs MC, que s'il peut leur donner accès à ce que lui, parce qu'il a tout gagné, il a tout Eminem. Il est pas là en train de dire je vais gratter sur Soulja House. Tu sais, il s'en fout, je pense.
Mais là on est d'accord que en fait il produit le groupe, mais il est pas dedans.
Non, il est pas dedans. Il fait un ou deux.
Il
est
en feat, ouais, mais...
tu vois. Mais non, il est pas dedans du tout. Toi, c'est vraiment pour dire bon les gars, je vous donne les supports et tout ça. Faites votre album, allez-y, tu vois. Et ce qui est toujours respectable, parce que c'est là quand on parle toujours de Eminem, tu vois, je pense que, encore une fois que c'est un vrai kiffeur, il kiffe le son, et là il est pas obligé de faire ça. Franchement, il est vraiment pas obligé de faire ça.
Ouais.
Tu vois. Et bon, c'est fait. Le groupe va se séparer en 2018 et en 2020, ça on en parlera plus tard, sur le dernier album, le groupe va réapparaître, mais cette fois-ci sur Joe Budden.
Voilà. Il y a eu des beefs avec Joe Budden.
Voilà, en fait, ouais. Tout le monde a des beefs avec Joe Budden maintenant.
Ah, okay.
Joe Budden a un podcast, lui aussi c'est un collègue en fait. Et il a un gros podcast.
C'est un confrère.
Ouais, c'est devenu un gros podcasteur, tu vois. Il a un podcast qu'il anime toutes les semaines où il a que pas mal de stars, les stars ouais. Et tout ça. Mais il beef un peu tout le monde, tu vois. Et ouais. Il critique, il a la critique facile, surtout sur la nouvelle école, tu vois. Il dit tout ce que c'est tout de la merde et tout ça.
Ouais, bah normal.
Ben voilà. Et ben, il a une seconde, il a vraiment une vraie carrière. Maintenant, Joe Budden, c'est l'animateur
c'est
radio.
C'est un podcasteur,
ouais. Tu vois. C'est marrant, tu vois, de savoir qu'on fait le même métier.
Ouais, c'est vrai.
Tu fais quoi, toi? Je fais le même métier que Joe Budden. Je vais dire ça à mon fils, putain. On est en 2012. Donc là, on a vu Eminem au top et tout ça. Il est, son album est considéré comme le most anticipated album of 2013, forcément. Hein, bon. On va pas traduire, hein, vous savez.
Ouais, l'album le plus attendu. Voilà. C'est un faux ami anticipé.
Voilà, exactement. Un peu d'anglais.
Le cours d'anglais, on n'est plus à une digression.
Voilà, c'est vrai, tu vois. Et là, juste là, regarde, la mission fait 2h30.
Non, après, pour de vrai, point de contrôle, Gis, ça fait combien de temps?
1h35.
Et on va arriver à la dernière page.
Ouais, bravo.
Tu vois. Et donc voilà, donc en 2013, on change pas une équipe. Allez, single. What I gave up to get was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think. Cause I'm friends with the monsters. I'm trying to pop it. Get along with the voices. Il a pris la même, hein.
Un featuring avec Rihanna, ça te dépose un album.
Voilà, exactement ça. Eh ouais. Alors. C'est un peu moins tourné sur Notaire, celui-là, que le celui d'avant. Mais gros carton, très très gros carton.
En fait, aussi, j'entends le couplet, je fais ouais, c'est quoi
ouais.
J'entends le refrain, je fais ah ouais.
Ouais, bah, oui. Et oui, c'est donc exactement la même recette. Alors ça va faire à peu près 4 millions US et 2 worldwide. Donc pour un.
Bah,
ça reste respectable.
C'est même mieux que le précédent de peu.
Ouais, ou quasiment pareil. Je sais plus. Oui, si c'est un peu mieux. Ouais, 3, 3 et 2
tout
notifiés.
Un petit peu mieux.
Ouais, un million de plus, tu vois, ouais. Comme quoi. Hein. Comme quoi. Et alors, là encore, j'ai les chiffres France. Et c'est fou, hein. Bon, quoi que fou, je sais pas. C'est moins fou que d'autres.
Là, ouais, 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 là.
150 000, celui-là.
Donc c'est le même chiffre que donc là il en vend 6 millions total, 150 000 chez nous. Donc Dr. Dre il avait fait 150 000 et ouais.
Il a vendu 8 et 10 quoi.
Ouais.
Alors ce qui montre aussi la taille du hip-hop US en France, hein, c'est anecdotique pour les US quoi. Nous on est toujours là, ouais, la France, il faut qu'ils tournent, qu'ils viennent en France. Non mais oui, pour en fait, les marchés US, la France,
les Américains, ils disent ouais, vous êtes où déjà.
Et voilà, tu sais, c'est pour eux, la France, c'est pas un gros business.
La France, c'est ce pays à côté de la Slovénie, c'est ça.
Exactement, tu vois. C'est non mais vraiment, et c'est important parce que moi, je sais que tant que tu vois pas ces chiffres-là, tu comprends pas pourquoi des fois les artistes US, ils sont là, ouais, venir en France faire un show, ok.
Faites un featuring avec un Français.
Ouais. On est toujours là, c'est ouais, faites un feat avec MC de Pigalle et vous allez voir, ça va vous faire du buzz de ouf. Vous aurez, ouais, buzz genre 10 000 de plus.
Mais même pas.
C'est pour ça que la France, ça ne les intéresse pas, les Américains. C'est ouais. Super dur. C'est super dur de les faire venir, tu vois. C'est parce
le dernier feat que j'avais vu, c'était quoi? C'était Freddie Gibbs, donc un de mes rappeurs préférés, hein,
bien sûr.
Avec Jazzy Baz.
Ouais.
Tourné
ouais.
En plus avenue de Flandre dans le 19e.
Ouais.
Et il s'est fait fumer sur son propre morceau. Ouais. Jazzy Baz, c'est ça aussi le risque, hein, de mettre un Américain avec toi, c'est que.
Bah, surtout quand tu prends un MC comme Freddie Gibbs.
Ouais.
Là, c'est clair que tu vois.
Attention ouais. Quand vous choisissez le feat, faites gaffe à pas vous faire plier sur votre propre morceau.
Et surtout être capable de savoir que vous allez vous faire plier.
Oui, parce
que,
aussi.
Il ouais. Y a des égos des fois qui font que. Bon, mais ceci, alors sur cet album, il va y avoir aussi. Alors pour les gamers, une chanson qui s'appelle Survival, qui va être le main theme de. Moi j'ai pas joué à Call of Duty Ghost.
Moi j'ai arrêté de jouer à Call of Duty aussi. Mais...
Voilà, mais c'était le main theme, c'est-à-dire tu mettais ton jeu, t'avais ça, donc en plus ils sont super forts, tu vois.
Ça c'est relou, hein. C'est ce qu'ils te font aussi dans FIFA et dans NBA 2K, c'est insupportable.
Ah ouais, grave, complètement.
Ah oh, il y a des compiles.
Ouais. Et donc voilà, donc c'est ce qui explique aussi les ventes de tout ça, le buzz. En 2014, je le dis, mais bon c'était pas. C'est peut-être pas très 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 important, mais il sort quand même une compile Shady, ça s'appelle Shady 15, pour fêter les 15 ans de Shady Records.
Ah, ouais. Pas mal.
Alors, il va y avoir ce morceau. But sometimes you gotta take a loss and have people rub it in your face
before you get made pissed off. Il va pas changer de flow, hein.
Non.
C'est fou ça.
So you know they're gonna talk about it. Better find a way to counter it quick. Il a marché sans Lego, ça y est.
Ouais.
I feel like I've already said this a billion
80 times. How many times can I say the same thing different ways to rhyme? Ah non, ça va en fait. Il a pas si mal que ça. Does anyone else can relate to my story? Bet you feel the same way I felt when I was in the same place. L'orteil dans un coin de meuble. Ah non. Ah, c'est Rihanna encore.
Alors, Rihanna n'étant pas disponible,
il a quand même pris une top line.
Il a pris Sia. Eh oui, c'est
qui
Sia.
A certainement écrit pour Rihanna de toute façon. Donc,
non, bien sûr, Sia a écrit pour Rihanna, voilà, c'est la même chose, c'est la même chose. Donc voilà, c'est marrant de voir que comment tu peux sortir les titres avec la même recette.
Ouais.
C'est
un refrain chanté
avec les mêmes voix, tu vois, les mêmes. Alors. Ça va faire comment? Ça va faire gold, ça, 500 000. Mais bon, pour une petite show.
Ah oui, mais c'est une compile.
C'est une petite compile pour les 15 ans.
Ouais,
pour les 15 ans, c'est genre, joyeux anniversaire. Voilà, un petit 500 000 pour tout le monde.
Ok.
Tu vois. Donc voilà, bon. Ils vont sortir aussi, alors pour ça, c'est pour les collectionneurs. Une petite box set de 10 vinyles.
Ouais.
Et il va faire une apparition sur l'album de Tech9.
Tech9, un rappeur étrange.
Oui. Mais très étrange. Un morceau très très étrange d'ailleurs. Je vais pas le mettre parce que le morceau est vraiment bizarre. C'est Eminem sur la route de Tech9.
Ouais, pourquoi pas, hein.
Tu vois, alors il devait être de passage. Ils ont dû se faire une petite bringue ensemble.
Il était dans le studio d'à côté.
Voilà, c'est ça, tu vois. Et bon, et ben c'est le deuxième petit creux d'Eminem. Tu vois, on va le voir apparaître à droite à gauche sur Skylar Grey, sur Yellow Wolf. Il va faire un sur l'album de Big Sean, il va faire un titre aussi qui va pas mal parler, qui s'appelle Campaign Speech. C'est pas celui que j'ai, mais c'est un titre qui va parler de tout ça. Et on va le revoir apparaître un jour après plusieurs années, hein,
ouais.
Après 2-3 années au MTV Awards avec ceci. That's why he wants us to disband, cause he cannot withstand the fact we're not afraid of Trump. Walking on eggshells, I came to stomp. That's why he keeps screaming drain the swamp, cause he's in quicksand. Like you take a step forwards then backwards, but this is his form of distraction. Plus he gets an enormous reaction when he attacks the NFL, so we focus on that and
instead of talking Puerto Rico with gun reform for Nevada. All these horrible tragedies and he's bored and would rather.
Ah, alors donc là il politise son discours.
Il politise son discours. Alors c'était l'époque où vous savez Puerto Rico s'était pris
un ouragan
tout ça, ouais. Et que Trump avait fait l'impasse, avait dit ouais petite tempête.
Là quand il balançait des sopalins.
Voilà,
en ouais, mode
c'est attends, voilà c'est rien à foutre. Genre, hop en brise de volée. Hop d'accord. Ah bah dans ta gueule.
Ah,
merde,
putain
tiens.
Incroyable. Ouais, ouais.
Et donc il va faire un gros freestyle anti-Trump et il va même aller plus loin.
C'est à ce moment-là qu'il est revenu ouais sur Twitter.
Ouais, c'est à ce moment-là. C'est
là dans quelle année là?
On est exactement, je vais te dire, on est en 2017.
Ah ouais, donc c'était, oui, 2017. C'est vrai, je me rappelle, ouais. Oui, le retour. Et là, il avait les cheveux noirs.
Il avait les cheveux noirs, là. Ah, voilà. Et une petite barbe noire aussi, tu vois. Ouais. Et là, c'est vrai que ça avait fait un gros buzz.
Ouais.
Le track, il avait buzzé partout. C'est vrai que c'est un gros freestyle parce que, quelque part, c'est ses fans qui ont élu Trump, tu vois. Et là, il va dire, Eminem fans cannot be Trump's fans. Il dit non, ça il pouvait pas m'aimer moi.
Donc là il peut s'aliéner une partie ouais, de son auditoire.
Voilà, c'est ouais. L'idée électorale, tu vois.
Ouais, bah, c'est pareil. Ouais.
Mais il va le dire non, c'est pas possible. Faut pas m'aimer et
aimer lui.
Et aimer Trump, c'est pas possible, tu vois. Donc il s'engage, tu vois. Enfin, est-ce qu'il prend des risques, je sais pas, mais bon, voilà. Et donc il y a une petite interview chez des services secrets
qui vont dire oui, bon.
Faut que tu nous expliques que veux-tu dire par là.
Normal,
tu vois,
hein.
Ouais. Tu vois, bon, certainement un petit redressement fiscal, ce qui a du sens.
C'est marrant ça quand même parce que c'est relativement tranquille. Hein. Je me demande si le rappeur Paris, là, le rappeur d'Oakland,
ouais.
avec ses albums Fuck Bush et Sonic Jihad, je me demande si les services secrets lui ont posé des questions. Ouais.
Bah, certainement.
Parce que là, enfin,
dès, pour moi, dès que t'as une audience, en fait, ils veulent savoir pourquoi tu fais ça.
C'est un petit freestyle, bon.
Okay. Ouais, ça fait du buzz. Hein.
Oui, parce qu'il passait pour un good guy,
ouais,
du coup.
Ouais, tu vois, ça fait du buzz. Et je pense que, tu sais, les services... Après, c'est encore une fois le marketing, tu sais, à quel niveau ils repompent pas une recette de 10 ans avant,
ouais.
En disant, on va faire un clash, et puis on aura les services secrets, et puis bon... Après c'est pas la même chose, tu vois, c'est plus l'Eminem de l'époque et même si ça fait du buzz, c'est plus l'Eminem d'avant, tu vois. Et il va sortir son 9e album.
Ouais.
Avec ce titre.
Ah. Oh bah. On n'attend même plus le refrain. Belle voix.
Oui.
Donc c'est pas Rihanna,
c'est l'original,
c'est la vraie. C'est Queen B. It's the curse of the standard that the first of the man. Ah non, le piano est insupportable. Always in search of the verse that I haven't spit yet.
Will this step just be another misstep? Il va marcher sur le Lego ou pas? Ouais. Bah, complètement. Voilà. Alors le morceau, c'est un bon morceau. Franchement, c'est un bon morceau. Ouais. C'est un morceau. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est toujours
le morceau s'appelle Walk on Water. Ouais, voilà. Alors que c'est Walk on Lego. Voilà. On le sait tous.
Mais c'est vrai que je vous dis franchement, cet album-là, je pense que je l'avais même pas écouté à l'époque. Donc, en faisant l'émission, j'ai écouté. Et c'est, je me suis pris à me dire, putain, c'est pas mauvais, en fait, tu vois.
Ouais.
Le mec, tu te dis, putain, ça fait 25 ans qu'il rappe. Et ça kick encore, quoi. Tu vois, il a encore
Mais ça fait 25 ans qu'il a le même flow, quand même.
Ça fait 25 ans qu'il a le même flow, c'est vrai. Et c'est fort. Parce que, il a pas besoin de chanter.
Ouais. Ouais, c'est beau. Non, le refrain est beau. Mais Beyoncé.
Ah oui.
Beyoncé, voilà, c'est... Tu peux pas te planter quand t'as Beyoncé.
C'est alors.
Mais il n'empêche que là,
on est en 2017.
C'est pas du tout la formule du rap que les gens écoutent en 2017. Mais après.
Et je pense qu'il est obligé de prendre à contre-pied le truc.
Oui, il peut pas se mettre à faire de la drill ou de la trappe.
Voilà. Et surtout qu'en plus, il va rentrer en beef avec, ça c'est juste après avec Machine Gun Kelly.
MGK, ouais.
Voilà. Qui lui est représentant de cette nouvelle génération.
Qui est aussi un rappeur blanc.
Rappeur blanc, exactement. Donc il va rentrer en beef, voilà. C'est, je me suis dit, putain, tu peux rentrer en beef, t'es avec moi, mais là aussi, est-ce que le marketing est entré en jeu, je sais pas. Et donc, ils vont échanger quelques tirs, quelques freestyles, quelques, tu vois.
Parce que chose, c'est que Machine Gun Kelly, il a quel âge?
17 ans, 18 ans.
Ça, c'est compliqué.
Ah oui, tu vois. Et Eminem va sortir cette raison. Et en plus, il aura le soutien. C'est drôle parce qu'il va avoir le soutien de tous les boomers du rap, on va dire, tu vois.
Ouais. Tu vois. Ouais, comment, quand t'as vendu 60 millions d'albums sur tes trois premiers albums, que t'as 25 ans de carrière, comment t'en arrives à te clasher avec un mec de 17 piges qui était sur SoundCloud?
Tu sais quoi? Je pense que, au bout d'un moment, tu te dis, putain, j'ai plus accès à Internet, mes titres, ils tournent plus sur Internet. Sur Spotify, je regarde, le mec, il a 4 millions de jours, moi, boum, tu vois, je dis non, c'est de, comment ils appellent ça, le mobile rap, c'est ça,
hein?
Et lui, lyriciste.
Ouais.
Il va dire, ah non, attends, c'est pas ça le rap.
Le mumble rap, c'est pas du rap.
Exactement.
C'est ce que Snoop l'a dit.
Tous les boomers du rap.
Tous les boomers.
C'est ça, donc c'est toujours pareil. Toutes les époques, New School versus Old School. Ouais, voilà.
Ouais,
et là,
ouais,
ça va tomber encore, tu vois. Et bon, on verra après sur son album d'après, hein. c'est que bon, on verra après. Ce sont le dernier album parce qu'il va faire en feat. Un feat avec Juice WRLD, ouais, qui est lui aussi une figure de proue du bubble rap, tu vois. Mais bon, ça c'est l'heure du. Entre temps, il va quand même sortir un 10e album qui va s'appeler Kamikaze.
Kamikaze.
Avec le titre.
Ah là, ça change un peu.
Ouais. Et pourquoi ça change? C'est un peu le morceau.
T'entends les charlets, hein?
Ouais.
Ils sont plus ouais, fréquents.
Ils sont déjà plus là.
Bon, ça fait pas non plus des mitraillettes de charlets, mais on est pas loin là.
Alors, les joies du marketing, c'est que ce titre sera aussi la BO du film Venom.
Ah ben, ça tombe bien.
Donc, d'où le style un peu plus vénère, un peu plus valable. Ouais. Donc, la magie du cross-marketing.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est 360.
Voilà, c'est ça, tu vois. Qui va faire que, bah, hey, numéro 1 Billboard. Hey, 10e album, numéro 1 Billboard, 1 million d'albums.
Bah, c'est marrant parce que du coup, ça veut dire que le mec se relance en faisant un track sur Call of Duty,
ouais,
un track pour un film Marvel.
Ouais.
Donc il reste quand même dans le carnet d'adresse des execs quand il s'agit de.
Il est chez Interscope, hein. Et les mecs, ouais, d'Interscope, tu vois.
Ah, il est chez Interscope.
Tu vois, voilà. Et ils vont lui dire, oh, mais n'oublie pas que t'as pas tes masters, hein. Donc, si on peut vendre des disques, ça nous arrange, tu vois. Donc, ouais, donc, tu vois.
Mais c'est marrant que ça fonctionne, tu vois, parce que moi. Ouais,
grave. Moi, j'ai lâché, là. J'avais même pas
changé les chiffres. Je vois Eminem qui fait la bande-son d'un Marvel. Je fais, bah, les couilles, quoi.
Ouais, ça fait même bizarre que je me dirais, ouais.
Parce que même les petits, tu vois, qui regarde un Marvel, ouais, faut, oh, c'est Eminem qui a fait Venom, ouais. Sachant que Venom est chez Sony Pictures,
ouais.
C'est pas exactement donc, Marvel.
C'est étrange que même tu te dis, bon, après,
genre, est-ce que
Venom,
vraiment...
ça a pas fait le carton.
Oui, c'était pas un carton. Non, mais il y avait quand même Tom Hardy.
Oh, oui,
tu vois,
bien sûr, mais ça n'a pas été une grosse réussite.
Ouais.
Tu vois, mais c'est vrai que c'est toujours surprenant de se dire de prendre un mec de 40 piges.
Ouais. Tiens, on va vendre ça à des petites 12 piges.
Ouais, tu vois. C'est... Et ben, apparemment, ça marche. Tu vois. Et il fait même, c'est étonnant, il fait une super carrière en Angleterre.
En Angleterre.
Mais quand je te dis une carrière, c'est dingue. Il y a eu une Eminem mania à ce moment-là où il faisait des chiffres. Je te dis, il faisait 500 000. Et c'était la meilleure vente de l'année derrière Sheeran. Le chanteur.
Non, mais les Anglais, je te jure, ils sont complètement baisés, hein.
Mais c'est dingue.
Ils fonctionnent à l'envers, ouais, c'est
fou. C'est fou, hein.
Ils roulent à gauche, ils mangent du poulet bouilli et
ils
tout.
Ils découvrent Eminem en 2020.
Ok.
Ah, c'est hallucinant.
Mais pourquoi? Je sais pas.
Il y a déjà un truc, les deux, trois derniers albums cartonnent en Angleterre.
Incroyable. Okay.
Ça a dû réveiller quelque chose chez eux, tu vois.
Ouais.
Genre, oh putain, oh, tu as entendu Eminem?
Ah, c'est pas mal.
C'est pas mal. Tu vois, donc on a parlé du beef, il est en beef avec Machine Gun Kelly.
Mais c'est réglé ou pas ça, non? C'est pas.
Je pense que c'est réglé. Ouais. Ouais. Je pense que ça a été réglé assez rapidement, tu vois. Et cette année, donc en janvier 2020, il va sortir. Voilà, même personne n'attendait. Hein, dans les bacs, pouf, tu vas à la Fnac et tu vois le nouvel album, le dernier album, Music to be Murdered. Avec.
Ah. Ah là, musicalement, là, c'est. Drinking half beat pack heat, but it's black ink. Evil half of the bad meats. Evil that means take a back seat. Take a back to fat beats with a maxi single. Look at my rap sheet. Oh, cool. These people is my gangster. Beats like Apache with a catchy jiggle. I stack chips. You better got a half eat Cheeto. Fill him with the venom and eliminate him. Other words, I'm intimate him. I don't want to hurt him, but I did him in a fit of rage. I'm murdering again. Nobody will have been. I'm finna kill him and dump with the fucking body. Hey, I'm Busta Rhymes. Everything is innovative. Renegade him. Hit him. Make anybody who want it with the pin and frame. Don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. I'm beginning to feel like I'm mentally ill. I'm gonna tell a killer. Be killed. I'm a killer. Be the vanilla gorilla. You're bringing a killer within me. Out of me. You don't want to be the enemy or the demon who in me. I'll be a receiving enemy. What stupidity it'd be. Every bit of me's the epitome. I'm spitting when I'm in the vicinity. Motherfucker, you better duck. You finna be dead the minute you run into me. 100% of you is a fifth of a percent of me. I'm about to fucking finish you, bitch. I'm available. You want to battle? I'm available. I'm blowing up like an inflatable. I'm undebatable. I'm unavoidable. I'm unevadable. I'm on the toilet bowl. I got a trailer full of money and I'm paid for. I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm pleading.
Ah ouais, le mec avait sorti, il a 46 ans.
Ah, il est chaud.
Alors, c'est un nouveau record du monde.
Ouais,
c'est un nouveau record du monde. Alors, ça fait buzz, bien sûr. C'est
évident.
Et lui est capable de le faire. Alors, le record, c'est 10,6 syllabes par seconde.
Pas mal.
300 mots en 30 secondes.
Beaucoup.
Voilà.
C'est-à-dire que le record d'avant, c'était, ouais, Twista qui devait l'avoir.
Ouais, ou lui était aussi détenait aussi un, ouais, autre record, tu vois. Bon. balèze. Et puis quand tu décortiques, tout veut dire quelque chose, tu vois.
Ouais.
C'est ça qui est dingue, tu vois. C'est donc balèze, balèze.
Et donc ça, c'était un feat avec Juice WRLD.
Ouais, Juice WRLD qui est mort lui aussi il y a cette année, il y a deux ans, qui s'est fait lui aussi. Non, lui il est mort pour overdose de.
De lean.
Voilà.
Certainement. Ou de Xanax
Et donc voilà. Encore une fois, c'est l'hypocrisie du game, c'est-à-dire tu rentres en bif avec le mec qui représente le SoundCloud rap.
Ouais.
Et sur ton dernier single, tu mets en feat
un mec qui représente le SoundCloud. Voilà.
Bah, tu vois, bon, c'est toujours pareil, tu vois. Et l'album lui est dédié d'ailleurs.
Ah, d'accord.
Tu vois, donc voilà.
C'est quoi le. Donc c'est Music to be murdered by.
Murdered, voilà. Tu sais,
de la musique pour se faire tuer.
Voilà. C'est... Alors il revient un peu du Slim Shady.
Ah ouais, parce que la pochette, donc c'est Eminem en costume, les bras dans le dos. Et puis quand on tourne la pochette, on voit le dos d'Eminem avec un flingue et une hache.
Voilà, exactement.
C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal.
Et l'album est franchement est correct. Je me suis mis, j'ai pas zappé. C'est du Eminem, quoi.
Alors
c'est,
attends, je regarde, il y a qui? Young M.A. Ah, ok. Royce da 5'9, d'accord. Ed Sheeran. Bah oui, bien sûr. Maintenant, ils visent l'Angleterre.
Exactement.
Ah, il y a quand même un morceau, tu l'as pas mis. Ouais. Le track 10, là, qui s'appelle Yaya, avec Royce, Black Soot, des Roots.
Ouais, bien sûr.
Q-Tip. Et Denon. Ouais.
Non, mais je te jure que c'est un album que tu pourrais apprécier. Écoute-le. Enfin, j'invite tout le monde, d'ailleurs, à l'écouter. Mais non, quand on dit plus acheter un album, hein. Maintenant, tu vas sur ton Apple Music ou sur ton V, et puis tu t'écoutes l'album.
Oui,
tu vois,
oui, c'est... de toute façon, oui. Ouais.
Et c'est intéressant de voir que, en janvier 2020, après avoir commencé, je sais pas, 25 ans avant, bah, il sort un album et, il fait encore numéro 1 Billboard. Hein.
Bravo.
Tu vois, il fait 300 000 première semaine, tu vois. C'est, tu vois, on est encore dans un, voilà, c'est, de toute façon, c'est là-dessus qu'on va conclure. Hein.
Ah, il y a du Anderson Paak aussi. Et il est toujours exécutif produit par Dr. Dre.
C'est ça.
En plus, la collaboration n'a pas bougé depuis 20 ans, là.
Après, t'as vu, il n'y a pas eu de problème majeur.
Oui.
On n'est pas descendu en dessous du million.
Ouais. C'est vrai que... Mais il n'était pas chez Columbia, donc c'est
Je pense qu'il y a une profonde amitié.
Entre les deux.
Je pense vraiment. Je pense que c'est des gens qui ont tout connu, qui ont connu la... Tu sais, et qui sont à des niveaux tellement hauts.
Oui, que...
Bah, en fait, ils sont entre eux, quoi, tu vois.
Ouais.
Ils sont entre eux, tu vois.
Mais c'est marrant de se dire que, alors, moi, la question que j'ai, c'est, est-ce que, parce que ça, c'est donc son dernier album.
Ouais.
Est-ce que Eminem est encore relevant, tu vois? Est-ce qu'il est encore, d'actualité? Est-ce qu'il signifie encore quelque chose pour le hip-hop aujourd'hui?
Alors, je dirais, c'est comme un nouvel album des Rolling Stones.
C'est ça.
C'est, tu vois, c'est comme un nouvel album de je sais pas, j'ai vu Deep Purple, enfin, peut-être, bon, Deep Purple, ça bouge moins le genre, mais un album de ce calibre-là, tu vois.
Ouais. C'est-à-dire que, en fait,
t'es plus dans le game. T'es plus dans le game, quoi.
T'es en dehors, mais t'es pas considéré comme totalement has-been.
Exactement. Et tu fais, comme tu remplis des stades.
Ouais.
Demain, Eminem, il fait une tournée, il remplit un stade, hein.
Ouais.
Tu vois, il vient ici en France, il vient au stade de France, tu vois, il va remplir. Donc, tu fais partie de comment ça s'appelait? Je les appelais, moi, merde, comment ça s'appelle, ce gros tourneur-là qui fait que des stades, américains.
Je sais pas.
Je le dirai.
Ouais.
Et c'est des rappeurs comme ça en fait maintenant qui remplissent. C'est des tourneurs en fait.
Non, parce que souvent tu vois, t'as quand même une petite revanche des rappeurs de se dire je suis toujours légitime. Ouais.
Lui, il a dû l'avoir avec son record du monde. Toi, il a dû se dire.
Ouais. Je vais vous montrer.
Je vais vous montrer. Tac tac tac. Et puis le mec, il fait. Quoi. Oh, on sait pas combien de prises. Hein, on sait pas. Tu sais, aujourd'hui avec
n'importe quoi. D'ailleurs, on le sait avec cette émission. Hein,
voilà, exactement. Tu vois.
On l'a refait 57 fois, bien sûr.
Voilà. Et donc, mais bon, voilà, c'est respectable parce que. Pour une fois, et lui et Lil Wayne, je pense que c'est les seuls qui n'ont pas une fin de carrière.
Ouais.
Difficile, tu vois. C'est là qu'ils sont toujours d'actualité, on va dire.
Ouais. Bon, avec quand même des chiffres qui, même si ils restent respectables, virgule, n'ont absolument rien à voir avec, donc là, exactement. Sur cet album, il fait quoi? Il fait platine.
Ouais, il fait platine.
1 million en 2020, alors qu'il a fait 27 millions.
Bien sûr, ouais. Complètement. Mais c'est comme Madonna, elle a sorti un album, elle va pas vendre 1 million, hein, ou 2 millions.
Madoki?
Madonna. Madonna, alors que c'est un événement, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
C'est ce calibre-là, c'est ces artistes qui maintenant le blaze, et puis, ça fait 25 ans, peut-être 25 ans de fans, donc tu prends 10 000 de chaque année.
Non, mais j'aimerais bien justement savoir sur les gens qui écoutent Eminem aujourd'hui.
Ouais, bien sûr.
Combien sont, est-ce qu'il y a des petits qui...
Est-ce qu'il y a encore des fans d'Eminem, déjà?
Bah, je pense que les mecs de notre génération, oui. Tu vois?
Oui.
Mais est-ce que vraiment, quand t'as 16 piges, que tu commences vraiment à t'ouvrir à la musique,
exactement.
Est-ce que t'écoutes un mec de 46 ans, de 48 ans?
C'est intéressant, ouais, c'est intéressant.
Tu vois, ça, j'aimerais bien avoir ce genre de stats.
Je sais pas, en fait. C'est
des petits, qui disent, j'adore Eminem, moi, ça me dit rien du tout.
T'as vu, on en parlait la dernière fois, il y a cette génération des 95 et qui sont très old school.
Attention.
Qui aime bien et avoir des références old school.
Attention, les mecs de 1995 là et de l'entourage et tout, ils avaient du boom bap, mais en fait, quand ils étaient old school, c'était par rapport à, au rap français.
C'est toi, tu le voyais comme ça, toi, c'est vrai, ça
ben, ouais, ça. En fait, ok, d'accord, ouais, tu fais un freestyle sur une instru de Craig Mack, par exemple.
Ouais, sûr, ouais,
mais
ouais.
Il n'empêche que tu rappes comme les Sages Poètes de la rue.
Oui, il a vu, d'accord, t'as raison.
Tu rappes comme les X-Men, c'est un clin d'œil au rap français.
Donc c'est possible que des gens se considèrent.
Moi, je sais que, tu vois, proche de moi, j'ai des petits de 16, 17, 18, 19 ans, tu vois. Et clairement, quand on parle musique, eux, ils écoutent que des trucs façon Niska, Kobalade. Ils écoutent que du rap français,
sûr,
en fait.
Mais
en rap qui arrive, les petits de mon entourage, ils disent
moi, je m'en suis rendu compte il y a 15 jours, 3 semaines. Je retournais au basket sur les playgrounds avec mon fils.
Mm-hmm.
Et écoute.
Pour dunker.
Voilà. Pour taper des dunk carrières, tu vois. Et ben, je te jure, nous, à l'époque, on écoutait que du rap US. C'était, Above the Rim, tu sais, comme ça, tu vois. Et ben là, j'ai eu du vocodeur rap français non-stop, du terrain d'à côté, qui jouait aussi. Ça a carrément changé. Bah non, ouais. C'est 100% rap français.
Ouais, c'est ça.
100% rap français. C'est même pas, tu sais, ça a changé complètement, ça a vrillé, quoi.
Ouais. C'est-à-dire que eux, enfin, je trouve ça cool d'un côté de me
bien
dire
sûr.
Que.
Bah, complètement, les quand petits... je dis vriller, c'est pas négatif, hein. Voilà, ça a changé.
Les petits français, quoi. En fait, là, ouais. Maintenant, ils grandissent sans regarder de l'autre côté de l'océan. En se disant, putain, New York, c'est trop, ouais. C'est trop la good life, j'aimerais trop vivre là.
Et je dirais même, bon, pour avoir cette expérience, ça a changé de cap. Aujourd'hui, pour les jeunes de 10, 12, 14, 15 ans, c'est plus les États-Unis qui font rêver, c'est le Japon. Tu vois? Ouais. C'est une génération, Japon. C'est-à-dire qu'ils mangent manga, ils mangent animé, ils mangent.
Ouais, mais on disait ça de nous aussi quand on.
Non, mais là, vraiment. Vraiment, là. Je veux dire,
Je dirais même que là, il y a carrément la K-pop, hein, qui est en train de tout péter.
Ah, bien
aussi.
Sûr. Ouais. Ça tue de l'autre côté, tu vois. Ce qui fait rêver les jeunes. Aujourd'hui, ils veulent aller au Japon.
Hein. Ouais.
Moi, tu dis mon fiston, il veut aller au Japon, à Tokyo. C'est son rêve, tu vois. C'est plus aller, nous, aller, ah, putain, ils vont à New York, tu vois.
Los Angeles, New York, ouais, bien sûr.
Ça switché. Il regarde la télé, il regarde des animés, il lit des trucs, il lit des mangas. Enfin, tu vois, là, c'est une, nous, on a commencé, et encore, nous, c'est tous derrière nous. Mais là, c'est vraiment une génération comme ça. Rap français, avec une orientation,
Asie.
Asie, c'est marrant, tu vois, c'est.
Ouais, c'est un switch. Ouais. Est-ce que c'est plus mal ou pas?
Non, c'est cool. Franchement, attends, moi, j'en profite avec mon gosse, hein. Franchement, je suis là, je regarde ce qu'il regarde. C'est sympa, toujours d'être dans l'actualité, ça permet de, d'être toujours dans le coup, quoi.
Ouais, non,
enfin, je dis ça, maintenant.
Oh, cette conclusion de boomer.
Ouais, c'est clair. Tu vois, mais c'est, et là, on est l'émission numéro 1.
Chez les plus de 60 ans. Non, mais du coup, enfin, moi, je suis plutôt raccord avec moi-même.
Ouais.
Parce que j'aimais pas Eminem avant et j'aime toujours pas Eminem. Donc, moi, je suis, tu vois.
Non, c'est bien. De toute façon, on sait.
Maintenant, je suis en phase avec la jeunesse.
Au bout d'un moment, c'est comme quand une montre est arrêtée, bah, et arrive un moment, elle dit l'heure.
Oui, une montre cassée donne la bonne heure deux fois par jour.
Exactement. Alors, pour en faire un résumé, c'est quand même le seul rappeur certifié deux fois diamant. Aux États-Unis, c'est 10 millions.
C'est pas mal,
tu vois. C'est le premier à avoir deux numéros à Billboard en 12 mois.
C'est pas mal, tu vois.
Mais de l'autre côté, il y aura toujours, surtout aux États-Unis, où les gens considéreront Eminem comme le Elvis Presley du hip-hop.
C'est-à-dire qu'il a dévoyé le truc.
Exactement. Et que ces chiffres prouvent d'ailleurs ce qu'ils disent. C'est-à-dire que s'il était pas blanc, il aurait pas vendu autant.
Ouais.
Ce qui est pas faux.
Je peux comprendre la frustration.
Ce qui est pas faux non plus.
Mais bon, le mec, 25 ans de carrière, à un moment donné, tu dis, il tombe pas du ciel.
Exactement, tu vois.
C'est pas un one hit wonder, ouais.
Je pense que c'est un mélange de tout ça.
Ouais.
On finira là-dessus. Eminem, c'est un mélange de tout ça.
C'est un mélange de tout ça. Non, mais c'est vrai que, il a su bien s'entourer, il bosse avec Dr. Dre, qui est quand même pas le dernier en termes de prod.
Comme on dit, docteur, quoi.
Ouais, docteur, il a fait des études. Donc, mais c'est vrai que sur les premiers trucs, là, quand je voyais les pubs dans The Source et tout, je me disais, ok, c'est quoi ce rappeur, là? Bon, ça durera pas. Tu
vois. Donc, toujours le défunt, tu vois.
Ouais, grave. Bah là, je suis, donc, j'aime toujours pas, mais ça a duré plus longtemps que je pensais. Ok. Ouais. Un peu comme cette émission.
Ouais, c'est vrai.
D'ailleurs.
C'est vrai. Au début, on voulait faire 20 minutes. Bon.
Non, donc, comme d'habitude, gros chiffre qu'on avait peut-être sous-estimé, tu vois. En tant que français, tu regardes Eminem, tu te dis pas, il est dans ce niveau de chiffre.
Ouais.
Mais c'est, à chaque fois, on se prend une douille, hein, quand on regarde les chiffres. Ça faisait pareil avec 50, etc. Il y a qu'avec Memphis Bleek, finalement, qu'on n'a pas été déçu, hein. Ou surpris, en
tout cas. Moi, j'étais déçu, moi.
Oui, plutôt de la surprise. Mais c'est cool. On voulait annoncer peut-être un petit ajout à.
Oui, forcément, l'Empire Six and Daz va prendre son envol.
Six and Daz Empire.
Tu vois. Et, on va vous faire, parce que on peut pas jouer tous les morceaux.
Ouais.
Et, c'est vrai que avec un qu'on veut dire avec Mog qui nous suit régulièrement depuis le début, hein,
Mog, hein, qu'on
cite souvent,
dans voilà, cette émission,
et
parce
qui
que...
aime bien sur Twitter justement mettre des inédits,
balancer des inédits, ouais,
c'était donc Mog qui est recherché, hein, d'ailleurs par toutes les maisons disques. Et on va faire une sorte de petit concept, une sorte de
pastille en plus,
voilà,
ouais,
d'aller plus loin ou tu sais deep,
deep ouais.
Go deeper,
into deep avec Mog,
avec Mog, ou ce serait passé d'une demi-heure où il jouera des morceaux, tu sais, qu'on n'a pas eu le temps de jouer, qu'on peut pas vous, on va pas tout vous jouer, toi,
juste vraiment, parce qu'on les a pas déjà, juste parce que même Eminem il l'aura voilà, sûrement pas ces morceaux là
exactement. Donc voilà, ça va être un truc qu'on va monter là, on a discuté de peu, donc on va voir techniquement comment on peut faire ça. Et puis tu veux qu'on parle de quoi, du prochain artiste déjà ou?
Oh bah écoute, moi de toute façon tu m'as matrixé. Voilà. Donc,
alors la prochaine fois on va revenir sur New York, hein, j'espère que oui, t'es de New York, et
oui, plutôt.
On va aller sur un autre speed rapper, ce sera Busta Rhymes.
Voilà. Ok, très bien. Très bien. Busta Rhymes, hein, leader of the new school, ouais. Flip Mode Squad.
Il y a beaucoup de choses à dire. On vous promet pas deux heures de show. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, on va finir, attention, son morceau, là.
It's me. Fuck around and make me bust. It's you. It's the devil. They always want to change. Oh no, big slim dog.
Donc ça c'est ton morceau.
Ouais, c'est mon morceau que j'ai pas mis, que je voulais mettre. Déjà un, parce que ma femme adore ce morceau. Elle m'a dit si tu le mets pas, tu rentres pas.
Je te tabasse. Voilà. Okay.
Déjà, très bien. Et puis c'est Beach Please 2 qui est la suite de mon morceau préféré de tous les temps, Beach Please de Snoop. Et c'est Beach Please 2 sur Marshall Mathers 2. Et voilà.
Alors tu sais quoi, si c'est à moi de choisir un morceau, ouais, bien sûr, sachant que j'aime pas cet artiste, je vais rester sur le morceau qui m'a le plus surpris dans cette sélection, c'est-à-dire le premier album là, le Tonight, voilà, hein, de 96, je le dis à Gis, hein, pour qu'il remonte dans la liste. Allez, c'est parti. Il faut pas qu'il rappe là-dessus. Voilà, c'est le souvenir que je veux garder d'Eminem, c'est-à-dire un artiste qui a disparu avant même d'avoir une carrière. Et on s'en rappelle avec nostalgie en disant « Ah, tu te souviens, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ce mec s'il avait vendu ?»
On était pas loin de ça en fait, ouais, l'histoire. Ça se joue à quoi? Rien. Ça se joue à une présence sur un battle rap.
Ouais.
Un mec, une démo qui... Le stagiaire était pas là, il prenait pas la démo.
C'était mort.
Ça tombe, il aurait fini chez Get Large, on va savoir.
Ok. Bon bah en tout cas c'était très cool, hein, de faire un passage en vue d'un artiste que je n'apprécie pas, parce que c'est aussi un exercice, hein, de parler de quelqu'un pendant deux heures qu'on n'aime pas des masses, tu vois. En essayant de rester gentil.
Non, il a été, ça va, il a été.
Ah, restez bienveillant.
Ouais, c'est vrai, bienveillant. C'est
cool. Ouais. Donc évidemment mille merci Six.
Moi, à l'artiste que moi j'apprécie.
Oui, bah oui, d'accord, ok.
Ça
s'équilibre.
C'est le yin et le yang.
On rappelle, voilà. Eminem, top 3 chez toi. Top rien chez moi.
Alors, un peu haut, peut-être.
Ah, quand même.
Voilà, un peu haut, peut-être. Voilà.
Bon, merci, voilà. Merci en tout cas, Six.
Bah, merci à toi.
Merci au Magislin. Toujours impérial.
Avec la petite précision sur cette télétraduction.
Ouais, mais on fera des points business avec Gislain de temps en temps. On a enregistré cette émission sur la table du studio de qualité qu'on a enfin fini de câbler ce matin même, dans le studio de qualité. Et si on peut faire ça avec le matériel qu'on a, c'est aussi grâce au Patreon.
C'est vrai.
Donc je vous enjoins gentiment à donner de l'oseille.
Comme dirait Baby, donne argent.
Voilà. Faites pas les pinces, vous avez trop d'oseille, parce que de toute façon, avec le confinement, personne dépense. Donc, n'hésitez pas à donner des thunes.
Puis personne achète des albums maintenant.
En plus, voilà. Donc, donnez-les-nous, comme ça, nous, on saura en parler et bien jouer avec votre argent. C'est comme ça qu'on va se quitter sur une note business. Yes. On fait de gros bisous à tous les graphistes freelance qui nous écoutent, à tous les chômeurs, c'est la même chose, MDR. On fait des gros bisous aussi aux femmes qui nous écoutent.
Car... Oui, qui disent, bah t'es où là pour aller chercher les enfants hein?
Exactement. J'ai reçu un texto de ma meuf qui me disait, va chercher les gamins. Voilà.
L'émission Boomer, de référence.
Ouais, mais j'ai ça aussi, il a reçu un texto, tu seras rentré pour la petite. Ouais, voilà. Donc voilà, on est tous niqués. Voilà. On vous fait à toutes et à tous de gros gros bisous et on se dit à très vite avec Busta Rhymes.
Ciao.
Ciao ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.